Mardi 28 septembre, il est 7h.
7h, 9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, une mascarade, une violation flagrante du droit international. Condamnation unanime des pays occidentaux après la publication des résultats des référendums d'annexion en Ukraine. Le oui l'emporte à plus de 90%. Les États-Unis et l'Europe promettent des sanctions. C'est l'une des surprises du projet de budget 2023. L'État s'apprête à embaucher 11 000 nouveaux fonctionnaires. C'est une première depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron à l'Élysée qui promettait radicalement le contraire il y a 5 ans. Souvenez-vous. Et puis nous irons à Rome où les immigrés se disent inquiets à l'idée de voir Giorgia Meloni devenir la future première ministre. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un oui franc et massif, mais personne n'est dupe. La Russie a officialisé hier soir les résultats des référendums d'annexion de quatre régions ukrainiennes. Zaporijjia, Kherson, Lugansk et Donetsk seront rattachés prochainement à Moscou après un vote du Parlement. En Russie, les médias se sont évidemment félicités de cette issue attendue. Écoutez, c'était hier soir au journal de la chaîne de télévision russe NTV.
Dans la République populaire de Donetsk, en 4 jours, plus de 86% des habitants ont pris part au référendum. Dans la République populaire de Lugansk, plus de 83%. À Zaporijjia, la participation a dépassé 66%. Dans la région de Kherson, 63% des électeurs ont voté.
Alors plus de 90% de oui en moyenne, ces référendums ont été aussitôt condamnés par la communauté internationale.
Il y a une mascarade pour la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. À Washington comme à Bruxelles, on promet des représailles sévères contre Moscou. Aucune chance en l'état que ce vote soit reconnu par les capitales occidentales. Volodymyr Zelensky l'a promis, les forces ukrainiennes protégeront les peuples de ces régions. Déclaration suivie d'une prise de parole aux Nations Unies.
La reconnaissance par la Russie des pseudo-référendums comme normaux, la mise en œuvre du même scénario qu'en Crimée et une énième tentative d'annexer une partie du territoire ukrainien signifie que nous n'avons pas à discuter avec l'actuel président russe.
Et on reste aux Nations Unies avec cette prise de parole très importante d'un représentant chinois à l'ONU. Pékin, jugé parfois trop conciliant avec Moscou, prend ses distances et renouvelle son appel au respect de l'intégrité de tous les pays.
Alors cette guerre en Ukraine se joue-t-elle aussi sous les mers? Le mystère de la fuite des gazoducs Nord Stream 1 et 2 reste entier.
Trois fuites repérées au large de l'île danoise de Bornholm en mer Baltique sur ces deux gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne. La piste du sabotage ne fait aucun doute pour les Européens. Bruxelles promet d'enquêter pour trouver le responsable. La Russie nie toute implication.
Il est 7h03 sur Europe 1. C'est l'une des surprises du projet de loi de finances 2023 qui a été présenté lundi. L'État va recruter près de 11 000 nouveaux fonctionnaires.
10 764 très précisément. Changement de cap radical pour Emmanuel Macron. On se souvient qu'il avait promis au contraire de supprimer 120 000 postes lors de son premier quinquennat. Depuis la crise des gilets jaunes est passée par là, Barthélémy Philippe, ses futurs fonctionnaires vont aller renforcer quelques ministères jugés prioritaires.
Oui, c'est la première fois qu'un projet de loi de finances entérine une augmentation de l'effectif de la fonction publique. L'essentiel des embauches concerne les missions régaliennes, défense, police, justice. Le ministère de l'Intérieur va recruter 3000 policiers et gendarmes, tandis que les armées attendent 1500 recrues. La justice, elle, obtient 2300 renforts. Enfin, l'éducation nationale recrute 4000 accompagnants d'élèves en situation de handicap. Des embauches qui vont peser sur les comptes publics, mais pour le ministre Gabriel Attal, l'augmentation du nombre de fonctionnaires est seulement ponctuelle.
Il y a dans la loi de programmation des finances publiques, écrit noir sur blanc, le mandat qui nous a été confié par la Première ministre, c'est celui de la stabilité de l'emploi public sur le quinquennat. Et évidemment, il sera tenu.
En 2021, la masse salariale versée par les administrations publiques aux 5,6 millions de fonctionnaires s'élevait à 211 milliards d'euros. Avant sa première élection, Emmanuel Macron promettait de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires pour alléger la dette. En un quinquennat, l'effectif global de la fonction publique n'aura baissé que de 1250 postes.
Barthélémy Philippe, et pendant ce temps, l'hôpital continue de fermer des lits. Plus de 4300 l'an dernier, selon la direction des études, cette statistique. La crise sanitaire n'a rien changé à cette logique à l'œuvre depuis plusieurs années. Ces fermetures s'expliquent en partie par les pénuries de personnel.
Nous sommes à la veille d'une mobilisation syndicale pour le pouvoir d'achat contre la réforme des retraites aussi. L'Élysée va d'ailleurs établir son plan de bataille sur ce dossier à l'occasion d'un dîner ce soir.
Il s'agira de se mettre d'accord sur la méthode, amendement ou texte à part entière. Autour d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, on retrouvera les ministres concernés par cette réforme des retraites et les chefs de file des partis alliés. Les syndicats, de leur côté, ont choisi de se retrouver dans la rue demain pour dire leur opposition au projet du gouvernement. Manifestation et appel à la grève. Des perturbations sont à prévoir, notamment dans les transports.
L'automne social sera-t-il chaud? Ce sera le thème du Club de la Presse Europe 1, 8h40, avec Yves Tréhard et Louis Osalter de Marianne. Pour l'heure, autre sujet sensible de ce second quinquennat, celui du suicide assisté.
Et le débat doit s'engager prochainement dans le cadre d'une convention citoyenne, 2 semaines après le feu vert du comité d'éthique. Emmanuel Macron s'en est entretenu avec une délégation de la Conférence des évêques de France, Victor Chabert. L'épiscopat a fait part de ses inquiétudes.
Oui, une évolution possible de la législation sur la fin de vie ne rassure pas l'Église. L'exécutif reçoit ces derniers jours l'ensemble des acteurs concernés, dont les différents responsables de culte. Pour le père Hugues de Voymont, porte-parole de la Conférence des évêques de France, la priorité doit être donnée au développement des soins palliatifs.
Nous avons pu dire l'inquiétude de l'Église de France. Nous avons également souhaité lui dire l'importance des soins palliatifs et le développement, le déploiement aussi des soins palliatifs insuffisants en France. Et enfin aussi insister sur la qualité d'un débat qui prenne en compte les paroles et l'expérience d'acteurs très différents.
Selon le père Hugues de Voymont, le président de la République a été à l'écoute. Emmanuel Macron souhaite lui-même un débat apaisé, que ce sujet ne divise pas la société et assure que rien n'est décidé à l'avance. Les évêques de France l'affirment, ils participeront activement aux discussions. Le président de la République veut la constitution d'une convention citoyenne sur la fin de vie dès octobre.
Victor Chabert du service politique d'Europe.
Enfin, en Italie, on attend maintenant la nomination plus que probable de Giorgia Meloni au poste de première ministre. Son discours très ferme sur l'immigration a de quoi inquiéter les ressortissants étrangers.
L'Italie compte un peu plus de 5,5 millions d'immigrés, ils représentent un peu moins de 10% de la population totale. On a voulu savoir ce matin effectivement quel était leur sentiment après la victoire de la coalition de droite. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome, Frédéric Michel.
Ronny vend des fleurs sur un marché du centre de Rome. Il est arrivé en 2013 du Bangladesh et n'est pas effrayé par la bella signora Meloni, comme il l'appelle avec le sourire.
Je ne pense pas du tout que le regard des Italiens change. Il n'y a pas de problème si on est en règle, si on a un travail. Si on respecte les lois, c'est bon. J'espère que tout ira bien pour tout le monde, pour les Italiens et aussi les étrangers.
Concierge dans un immeuble de standing de la capitale, ce Sri Lankais qui a obtenu la nationalité italienne après 20 ans passés dans le pays est un petit peu plus inquiet.
J'espère que les gens ne feront pas d'amalgame. Moi, je travaille ici depuis longtemps et je vois, il y a des personnes mauvaises qui parfois me font carrément peur. Et tu te demandes, mais pourquoi elles se comportent comme ça ?
Valeria, qui a voté dimanche en espérant que de nombreux Italiens feraient comme elle pour limiter le score de la droite, craint une augmentation des actes racistes dans son pays.
Les gens, ils vont faire quelque chose avec les immigrants parce qu'il y a Giorgia Meloni et donc ils vont sentir qu'il n'y aura pas de punition. C'est ma peur. Pour les gens qui viennent, qui cherchent quelque part meilleur pour vivre.
Un sentiment qui reste isolé. Rome, Antonino Gallofaro, Frédéric Michel, Europe.
Allez, on va terminer avec un petit peu de musique si vous voulez bien.
David Bowie,
vous l'avez évidemment sans doute entendu au moins une fois ce titre, Starman.
Oui, au moins une fois, oui.
Hein, minimum, Starman de David Bowie, c'est l'un des plus grands tubes extraits de l'album Ziggy Stardust. Le texte de cette chanson écrite sur feuille de papier à l'encre bleue par Bowie himself, oui, absolument. Et bien, il est adjugé 226 000 euros aux enchères. On ne connaît pas, parce que je sais que vous allez me poser la question, l'identité de l'acheteur. Bah c'est voilà, juste que c'est un riche collectionneur, ça ne vous étonnera pas.
Ça ne m'étonnera pas. De Starman à Starmania. Tiens, Starmania, le retour. On en parlera dans le journal de 7h30 avec Romain Nouquet. Merci beaucoup, Christophe. Dans un instant, l'invité Écho d'Europe Matin, déplacement d'Elisabeth Borne aujourd'hui sur le thème de l'hydrogène. Mais à quoi ça va nous servir, l'hydrogène? La réponse dans un instant avec le président de France Hydrogène, Philippe Boucli.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
En quête d'une nouvelle autonomie énergétique, la France parie sur l'hydrogène. Elisabeth Borne, la Première ministre, se rend aujourd'hui sur un site industriel dans l'Oise pour soutenir la filière. Et justement, le président de France Hydrogène est l'invité d'Europe 1 ce matin. Bonjour Philippe Boucli.
Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bienvenue sur Europe 1. L'hydrogène, il ne se passe pas une journée en ce moment, quand on est un peu attentif, sans qu'il y ait annonce de lancement d'un nouveau projet. Là, je regardais par exemple, c'est EasyJet et le motoriste Rolls-Royce qui nous disent bah, l'avion zéro carbone sera probablement un moteur hydrogène. Et c'est comme ça absolument tout le temps. Alors l'hydrogène, je rappelle, gaz non toxique, très énergétique. Il a comme avantage que quand on le brûle, le seul résidu, c'est de l'eau. On en est où du développement de cette filière hydrogène, Philippe Boucli, en France?
On est vraiment au décollage. La filière française bénéficie d'une dynamique très forte. Nous étions 120 en 2019, 120 membres de l'association. Nous sommes maintenant 450 des grands groupes, plus d'une centaine, des PME, des PMI, des start-up, plus de 200. Tous les centres de recherche de France sont membres de l'association. Et ce qui fait notre particularité, des collectivités territoriales. Toutes les régions de France sont fortement impliquées. Certaines ont des stratégies, toutes ont des stratégies, oui. Des feuilles de route avec des budgets parfois conséquents.
Mais alors pour faire quoi justement? Parce que 450 membres chez France Hydrogène, vous faites quoi concrètement?
Alors, il faut travailler sur toute la chaîne, c'est-à-dire à la fois produire des matériels, c'est le sens du déplacement de Mme Borne aujourd'hui, Plastic Omnium. C'est un des projets, donc de faire des réservoirs pour contenir l'hydrogène à haute pression. Pression importante, hein, 350 à 700 bars pour mettre dans les véhicules comme la Mirai de Toyota que vous voyez circuler, les taxis parisiens. Je crois que
Plastic Omnium, c'est un équipementier automobile. Hein, voilà, c'est ça,
tout donc, à fait, Plastic Omnium, ouais. Mais il y a aussi Faurecia qui fait un peu l'équivalent. Vous avez
on travaille sur la voiture à hydrogène, très clairement. Là, hein.
C'est pas la priorité. La priorité, c'est l'hydrogène, en fait, aura un rôle très important dans la transition énergétique. Il fera ce que l'électricité ne sait pas faire.
C'est-à-dire
donc, il va donc aider à décarboner tout le système énergétique. Là où l'électricité peine à faire, c'est notamment l'industrie lourde. L'industrie lourde, c'est par exemple la sidérurgie. Actuellement, vous réduisez du minerai de fer avec du coke, avec du charbon.
Oui.
C'est 2 tonnes de gaz carbonique par tonne d'acier.
Waouh.
À l'avenir, on va faire ça avec de l'hydrogène et vous allez diviser par 10 les émissions de gaz carbonique.
Oui.
C'est par exemple la production d'engrais. C'est par exemple dans la chimie.
Dès qu'on besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'électricité notamment, et que cette électricité, on va la faire avec du charbon, on peut faire avec de l'hydrogène. C'est l'idée, c'est un peu le principe.
Non, l'hydrogène est un vecteur énergétique, donc il faut une source. Et donc la source, elle doit être renouvelable ou bas carbone. Et c'est la chance aussi de la France d'avoir un mix électrique très décarboné.
Oui.
Et donc on peut faire cette électricité à la fois avec du renouvelable, oui, ou avec de l'électricité nucléaire.
Alors justement, j'ai découvert qu'il y avait 7 couleurs d'hydrogène. Il n'y a que le vert. Ah bah, si, ouais, j'ai vu qu'il y avait de l'hydrogène rose quand on passait par le rose.
Non, il faut sortir de ce débat sur les couleurs et il faut s'engager sur quelque chose de plus rationnel. C'est-à-dire à partir de quand on peut considérer que l'hydrogène est vertueux.
Oui.
Alors si vous faites comme actuellement de l'hydrogène à partir de fossiles, si vous le faites à partir de gaz naturel, c'est 9 kg de gaz carbonique par kilo d'hydrogène. Si vous le faites à partir de gaz naturel, à partir de pétrole, c'est 13 kg, à partir de charbon, c'est 20 kg. Donc on sent bien que c'est pas pérenne, c'est pas vertueux. Ouais. Donc il faut le faire à partir de sources bas carbone, c'est ce que je disais, nucléaire ou renouvelable. Et il se dégage ce qu'on appelle la taxonomie verte, ce qui dégage un seuil en dessous duquel on va considérer que l'hydrogène est vertueux.
Oui.
C'est actuellement le chiffre qui circule, c'est 3,38 kilos de gaz carbonique par kilo d'hydrogène, c'est-à-dire un abattement de 70% à peu près par rapport aux méthodes classiques.
Alors c'est bien de nous mettre une échelle de valeur comme ça en tête, mais alors vous avez vu, c'est dans l'actualité, Philippe Bouclier, on en a parlé un peu ces derniers jours, les eurodéputés viennent de voter un amendement qui autorise à qualifier de renouvelable, de vert donc, de l'hydrogène qu'on produirait grâce à des centrales thermiques qui pourraient fonctionner au charbon, complètement aberrant.
Oui, oui, là, il y a eu effectivement, on n'a pas tout à fait compris le vote des...
Bah, c'est terrible parce que c'est un dégât d'image pour la filière, ça quand même. On se dit, on veut nous faire croire que l'hydrogène c'est vert alors que ça ne l'est pas.
C'est le vote du Parlement européen, c'est important. Mais maintenant, on va s'engager une discussion, une négociation entre le Parlement européen, la Commission européenne, qui a quand même été désavouée par le vote du Parlement, et par le Conseil de l'Union, donc par les ministres.
Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là, vous pouvez... Philippe, c'est quoi? C'est les Allemands qui ont fait pression pour... je sens que vous le savez, mais que vous ne voulez pas nous le dire.
Nous avons... Nous souhaitions des assouplissements par rapport à ce qu'avait proposé la Commission, mais pas à ce niveau-là. Ouais. Là, je dirais, à la limite, c'est tout faux. Là. C'est-à-dire que c'est à la fois la porte ouverte à une sorte de greenwashing, puisque effectivement, cette période de 3 mois va permettre d'utiliser de l'électricité carbonée pour faire de l'hydrogène réputé non carboné.
Ouais.
Et puis, par ailleurs, ça ouvre la porte à n'importe quoi hors des frontières de l'Europe. Ouais. Et donc ça, c'est pas admissible.
Et Philippe Bouclier, quand on regarde un peu aujourd'hui le mix énergétique français, bon, on voit que l'automobile, grosso modo, c'est simple, elle marche avec du pétrole. Se chauffer, il y a plusieurs méthodes. Mais on voit que demain, il y a la possibilité de voir cohabiter des technologies très différentes, y compris pour un même produit. L'automobile pourra être électrique, elle pourra fonctionner au gaz, elle pourra fonctionner au GPL, elle pourra fonctionner à l'hydrogène. Quelle place pensez-vous que l'hydrogène occupera? Quels seront les segments sur lesquels vous pensez que l'hydrogène a un grand avenir?
L'hydrogène ne fera pas tout. Oui. Sans l'hydrogène, vous ne réussirez pas la transition écologique. Donc actuellement, la stratégie française est très claire et tout à fait appropriée. On réserve l'hydrogène, comme je l'ai dit tout à l'heure,
à l'industrie
lourde et à la mobilité lourde. Pour donner 500 km d'autonomie à un camion de 40 tonnes, avec une prise de 50 kW, donc bien supérieure à ce
que
vous
pouvez... On fera passer avec des batteries électriques, quoi. C'est ça que vous dites.
En fait, il faut un poids de batterie tout à fait important, alors qu'avec l'hydrogène, vous retrouvez le confort du gasoil ou de l'essence, avec en plus l'avantage de ne rien rejeter à part de la vapeur d'eau. Donc, pour l'instant, on est parti sur l'industrie lourde, la mobilité lourde ou intensive. Intensive, ça veut dire tout ce qui est mobilité du dernier kilomètre, tout ce qui est logistique du dernier kilomètre. Mmh. Et puis les taxis, tels que vous les voyez actuellement, la société Aïsetco sur Paris avec les taxis hydrogène.
Merci de nous avoir éclairé sur l'hydrogène, filière encore méconnue, mais ça commence à progresser. Philippe Boucli était l'invité d'Europe Matin. Je rappelle que vous êtes le président de France Hydrogène. Bon déplacement dans l'Oise avec la Première Ministre. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
7h20 sur Europe 1.
Europe Matin. Hello Work, la première plateforme française de recrutement, vous présente l'édito éco.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Alors, vous avez été un peu stupéfait hier en entendant le président américain Joe Biden faire l'apologie de la concurrence.
Ouais, et puis c'était une apologie limpide et précise. Joe Biden a publié une série de tweets parmi lesquels un magnifique « Le capitalisme sans la concurrence n'est pas le capitalisme, c'est l'exploitation », j'adore. Il y a eu aussi « La juste concurrence est ce qui a fait des États-Unis le pays le plus riche et le plus innovant dans l'histoire », ou encore « La concurrence est le cœur du capitalisme, je mobilise toute mon administration pour la placer au cœur de notre économie ». Ce qui s'est passé, c'est que le président Biden a signé une ordonnance qui vise à rendre l'économie américaine plus concurrentielle. Cela concerne plusieurs secteurs, les médicaments, les cartes de crédit, l'alimentation, le numérique, les transports. Il s'agit de donner plus d'informations aux consommateurs pour qu'ils puissent se décider en connaissance de cause, plus de facilité aussi pour que les consommateurs soient capables de changer de prestataire de service quand ils le souhaitent, dans les télécoms par exemple. Et puis, Joe Biden veut aussi donner plus de pouvoir aux autorités antitrust pour qu'elles luttent contre les monopoles.
Ah, ça, c'est vraiment la philosophie européenne, on a l'impression que découvre Joe Biden.
Ah
oui, la concurrence pour faire baisser les prix et rendre du pouvoir d'achat aux Américains en période d'inflation, c'est ça l'enjeu.
Ouais, c'est ça, il y a deux éléments dans la logique de l'administration Biden qui explique cette obsession de la concurrence. Déjà, oui, Dimitri, l'idée de diminuer les marges indues des entreprises, celles qui sont liées au manque d'information du consommateur ou à une position de monopole, pour diminuer les prix et redonner du pouvoir d'achat. Je rappelle que l'inflation, elle est supérieure à 8% aux États-Unis. Mais il y a une deuxième idée qui est aussi de dynamiser l'économie américaine, dont l'économiste Thomas Philippon avait montré il y a quelques années qu'elle était en réalité moins concurrentielle que l'économie européenne. C'est ce que vous venez de souligner, Dimitri, notamment dans les télécoms ou le transport aérien. Or, on sait que la concurrence est bonne. Elle est bonne pour l'activité économique, elle est bonne pour l'emploi. Il s'agit donc pour Biden d'utiliser la concurrence comme un outil de lutte contre l'inflation, mais aussi d'encouragement à l'innovation et à la croissance.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce soit les démocrates qui fassent l'apologie de la concurrence.
Et ouais, Elizabeth Warren, qui est une sénatrice plus à gauche que Biden, est aussi très en pointe sur ces questions de concurrence, notamment des GAFA. Elle considère que la concentration des GAFA ferme la porte à l'entrée de nouvelles entreprises dans le numérique. Alors notre gauche à nous, elle ne fait que parler de taxes et de dépenses publiques en France, qui dépense et qui taxe déjà énormément. Et si la gauche française était un peu plus astucieuse et créative, elle évoquerait la concurrence dans le ferroviaire par exemple, pour faire baisser le prix des billets de train, ou même la concurrence pour aider les salariés. C'est ce que fait Joe Biden dans le texte publié hier. Il explique que les entreprises en situation de monopole pratiquent des salaires plus faibles que les autres, ce qui est socialement scandaleux. Je vous le dis, vive la gauche américaine.
Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h23.
C'était l'édito éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, c'est le journal permanent. Alban Le Prince sur Europe 1.
L'Union européenne promet la réponse la plus ferme après la détection hier de fuites touchant les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. Fuite après l'enregistrement d'explosions sous-marines. Un résultat nord-coréen. Les forces pro-russes ont dévoilé les scores des référendums d'annexion de 4 régions ukrainiennes. Évidemment, le oui l'emporte à plus de 90%. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, promet qu'il agira pour défendre son peuple. Et puis un dîner organisé par Emmanuel Macron ce soir à l'Elysée en présence des poids lourds de la majorité. Au menu des discussions, la méthode à adopter pour faire passer la réforme des retraites à la veille d'une journée de mobilisation.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Aujourd'hui, pour la première fois, une femme va prendre les commandes de la Station Spatiale Internationale. C'est l'Italienne Samantha Cristoforetti. Bonjour Land Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
À cette occasion, vous revenez sur le départ pour l'ISS de la toute première femme spationaute. C'était en 2001 et c'était la Française Claudie Aigneret.
Oui, elle s'appelle à l'époque Claudie André Dehaelle, n'a pas encore épousé l'astronaute Jean-Pierre Aigneret. Elle est médecin de formation et 2 ans plus tôt, en 99, elle était déjà la première femme à être habilitée à commander un vaisseau russe Soyouz. Interview à l'époque sur Europe 1.
En Europe, nous sommes 3 à avoir cette formation de commandant pour le retour du vaisseau en urgence. Et vous savez que nous, cosmonautes, on joue toujours un petit peu 2 ou 3 pions en avance, comme les joueurs d'échecs. Donc le plus d'atouts, le plus de compétences, c'est ce qui vous donne le plus de chances pour être sur la liste des prochains équipages.
Elle a besoin pour vivre de montagnes à gravir. La voilà 2 ans plus tard, en 2001, qui s'envole pour la Station Spatiale Internationale. Elle est la plus compétente, disent alors ses référents, et elle possède 2 doctorats, un en médecine, un autre en neurosciences. Après 10 jours de vol, elle raconte au micro de Christophe Delay sa surprise de voir le corps se réadapter aussi facilement à la terre ferme.
Moi, je trouve que c'est formidable, cette capacité du corps humain de s'adapter à des changements d'environnement aussi importants. Puis pour moi, retrouver mari, petite fille, maman et amie. Enfin.
Une dernière question, 2 missions là-haut, hein, très haut pour nous. On a envie de repartir une 3e fois.
Laissez-moi profiter de cette mission-là, on verra plus tard.
Mais Claudie Aigneret, alors, en tant que femme, a-t-elle conscience d'avoir à l'époque ouvert une voie?
Oui, en 1996 déjà, elle a 39 ans et lors de sa toute première mission à bord de la station Mir, elle voulait faire passer un message aux jeunes filles.
C'est une énorme responsabilité, parce qu'il ne faut pas que je les déçoive, parce que je représente quelque chose. Ça, je le vis un petit peu dans la vie quotidienne. C'est vrai que des gens m'approchent en me disant leur fierté de ce que je représente pour eux. Je suis très heureuse si je peux leur donner cette confiance en elles, confiance en leur féminité, leur capacité à réussir des choses en tant que femme.
Et au-delà de son métier d'astronaute, Claudie Aigneret veut transmettre sa passion des sciences. Elle deviendra ministre de la Recherche 1 an après son retour de la Station Spatiale Internationale en 2002.
Merci beaucoup, Lord Autriche. Allez, à suivre dans le journal de Romano. On va faire connaissance avec 2 petits cracks des échecs. Ils ont 8 et 10 ans, Marc et David. Vous les entendrez dans un instant.
Europe Matin,
7h, 9h,
Dimitri Pavlenko.
Ils sont français encore à l'école primaire. Ils viennent d'être sacrés champions du monde d'échecs. Le témoignage de ces 2 prodiges, c'est dans un instant. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de bus en Ile-de-France? Eh bien, vous avez raison. La RATP est confrontée à une pénurie inédite de chauffeurs. Soucis de recrutement, absentéisme et même des fraudes massives sur les arrêts maladie. On va tout vous expliquer. Et puis le carton rouge des députés de la NUPES. Un match caritatif de football est organisé aujourd'hui avec les élus de l'Assemblée nationale, y compris du RN, eh bien la gauche va boycotter. Le journal Roman Hockey, bonjour Roman.
Bonjour à tous. Tiens, vos enfants, comment s'occupent-ils le mercredi? Tennis, vélo, peut-être pâte à sel. Et avec vos yeux de parents, vous trouvez même qu'ils ont un bon niveau. Eh bien écoutez, ce qui va suivre, je vous présente Marc et David. Eux jouent aux échecs, d'accord. Sauf qu'à 8 et 10 ans, ils sont champions du monde, chacun dans leur catégorie. Ces 2 petits Français ont réalisé un doublé historique hier en Géorgie. Plus de 30 ans que ça n'était pas arrivé, mais pas de quoi prendre la grosse tête. Ils ont raconté leur performance à Louise Douillet pour Europe 1.
Ben, on s'est concentré, on a joué 5 heures, 7 heures, on a joué beaucoup de temps pour gagner ces parties et accumuler les points pour être champion du monde.
Il y avait 150 joueurs en 8, 150 je crois en 10.
155. 155 pour être plus précis que moi. Il y avait beaucoup de Russes, il y avait beaucoup d'Indiens, des Kazakhs, et les Américains, il y en avait trop, je crois.
Et comment vous discutez? Vous n'avez pas besoin de discuter?
Non, pas vraiment. Il y en a qui disent good luck, mais c'est tout. On parle pas trop. Hein.
Quand vous allez arriver à l'école, est-ce que vous imaginez comment ils vont vous accueillir?
Moi, la dernière fois au championnat de France, quand j'étais champion, ils m'ont accueilli avec un grand bravo quand je suis entrée dans la classe, donc je pense que ça va être la même chose.
Et toi, Marc, avec peut-être les copains du club d'échecs?
Ah oui, ils prennent du champagne, ils font la fête parce que j'ai gagné. J'ai fait 3 nuls et 8 victoires. J'ai perdu aucune partie.
Et est-ce que vous pouvez vous imaginer, l'un comme l'autre, dans les prochaines années, continuer à jouer aux échecs, peut-être en faire un métier plus tard, vous savez, tous les deux?
Moi, je veux être champion du monde et grand maître. Et... moi, je pense que ça va rester une passion, personnellement.
Et oui, il faut que ça reste une passion.
Il y en a un qui est plus déterminé que l'autre.
Oui,
hein.
Oui, c'est vrai. Mais ils ont quand même les pieds sur terre, hein, nos champions.
Ouais, donnez leur nom à Roman,
voilà,
s'il vous plaît.
Bravo à Marc Larry et David Lacanrus, qui vont quand même bien frimer à l'école demain, ça, c'est certain.
Voilà, graine de stratège, en tout cas. Formidable témoignage. Merci à Louise Douillet de nous avoir fait entendre ça ce matin sur Europe 1. 7h32, c'est un dîner épicé qui se prépare à l'Élysée ce soir.
Oui, Emmanuel Macron réunit ministres et membres de la majorité. Au menu, un plat unique, la réforme des retraites.
Ah oui, l'exécutif doit trancher sur la méthode alors qu'une journée de mobilisation se prépare demain.
Augmenter les salaires, pas l'âge de la retraite, c'est le mot d'ordre de la CGT, FSU et Solidaires qui appellent à la grève. Mouvement suivi par les salariés de Total Énergie, la RATP aussi. D'ailleurs, le trafic sera perturbé demain sur le réseau francilien.
Ah oui, on peut dire que la régie des transports franciliens n'avait pas besoin de ça. La RATP est confrontée en ce moment à une pénurie inédite de conducteurs.
Et vous vous en êtes peut-être rendu compte, ce mois-ci, un quart des bus franciliens sont tout simplement restés au dépôt. Valérie Pécresse, qui préside la région Île-de-France, a réuni les opérateurs hier. Aurélien Fleureau, la priorité, c'est le recrutement.
Oui, parce qu'il manque encore plusieurs centaines de chauffeurs. La RATP voulait en recruter 1500, seulement 800 ont pour l'instant été embauchés. Des difficultés, c'est vrai, rencontrées par tous les opérateurs, mais ce qui touche particulièrement la RATP, c'est un taux d'absentéisme très élevé, explique Jean-Yves Leclerc, le directeur financier du groupe.
C'est presque deux fois plus par rapport à 2019, dont une partie résulte d'actes frauduleux sur lesquels on est en train de renforcer les contrôles et les sanctions, puisqu'il y a environ 130 procédures de licenciement qui sont en cours suite à des arrêts maladie frauduleux.
Une fraude massive, a dénoncé Valérie Pécresse, la présidente de région, qui a également annoncé plusieurs mesures pour inciter notamment les jeunes à se lancer dans ce métier d'avenir, selon elle.
Nous allons travailler sur l'orientation à la fois des jeunes et des demandeurs d'emploi vers ces métiers, avec une prime de 2000 euros pour tous ceux qui entreront dans ces formations et qui leur permettront de se former en l'espace de 3 mois.
Valérie Pécresse a également demandé au ministère de l'Intérieur d'accélérer les délais entre l'obtention du permis et sa délivrance. 3 mois, c'est trop, a-t-elle martelé. 3 mois, c'est aussi la période où la galère va continuer pour les passagers puisqu'un retour à la normale est espéré début 2023.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. 7h34, Didier Deschamps n'est visiblement pas le seul à avoir des soucis d'effectifs. Les députés de la NUPES ne participeront pas au match de football caritatif organisé aujourd'hui.
La rencontre qui est organisée tous les ans entre d'anciens internationaux et des élus de l'hémicycle.
Et y compris donc ceux du Rassemblement National, ça c'est une première. Alexis de la Fontaine, pour les élus de gauche, pas question de faire équipe sur le terrain.
Oui, les insoumis, socialistes et écologistes refusent de participer à ce qu'ils dénoncent comme la normalisation du Rassemblement National. Dans un communiqué, les insoumis déclarent être plus enclins à tacler l'extrême droite qu'à lui faire des passes. Une position défendue par le chef des socialistes, Boris Vallaud.
Est-ce qu'on va faire croire que nous pouvons être coéquipiers sur le terrain alors que nous refusons obstinément à l'être dans l'hémicycle?
Seul le parti communiste enfilera ses crampons. Le député Sébastien Jumel se justifie. Les milliers d'amateurs en France ne demandent pas pour qui a voté leur adversaire. Alors pour la formation de Marine Le Pen, la rencontre entre l'équipe de foot de l'Assemblée et les anciennes stars de l'équipe de France est prise en otage par la gauche, comme le détaille Emmanuel Bléry, gardien de but et député du Pas-de-Calais.
On sera sur un terrain de football, on respectera les règles, eux décident de boycotter ça, finalement ils ne respectent pas les règles, un peu comme ici dans l'hémicycle. On appelle ça du sectarisme, qui est un marqueur de l'extrémisme. Où se situe l'extrémisme aujourd'hui? Je pense plutôt à gauche.
Enfin, la majorité présidentielle est également divisée sur le sujet, tandis qu'Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, déconseille aux macronistes de participer à ce match. Carl Olive, le capitaine de l'équipe, sera lui bien présent.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 a noté que la France Insoumise a indiqué qu'elle allait financer directement l'organisation concernée par ce match caritatif, une association de protection des enfants sur Internet.
Allez, du foot encore, mais cette fois du vrai Brésil-Tunisie. C'était l'affiche de gala hier soir au Parc des Princes.
Oui, sur le terrain, ce devait être un match amical, mais dans les tribunes, l'ambiance était lamentable.
Oh,
Les sifflets au moment de l'hymne brésilien dans un stade majoritairement occupé par des supporters tunisiens. Pendant la rencontre, une banane a aussi été jetée des gradins contre un joueur de la Seleção.
Un geste raciste, clairement, et des incidents qui n'ont pas empêché le Brésil de donner une leçon de foot à la Tunisie, battue 5-1.
7h37, plus de 11 millions de personnes plongées dans le noir. Coupure de courant généralisée sur l'île de Cuba, victime de l'ouragan Yann. Il avance désormais vers les côtes de la Floride aux États-Unis. Des vents de 200 km/h et des pluies diluviennes sont attendues dans la soirée. Une question pour vous, Dimitri. C'est quoi votre comédie musicale préférée ?
Rocky Horror Picture Show. Vincent Herbouet en 75 dans la salle de cinéma. Là.
Ah, ça décoiffe, hein ?
Oui, je m'en souviens.
Alors, un style assez déjanté, ça je vous l'accorde. Je vous imaginais bien chanter ça dans votre bureau, Dimitri. Ouais. Je suis sûre aussi que vous avez aussi fredonné cette comédie musicale. On parle de Starmania ce matin, qui est de retour le mois prochain. Un incontournable, mais dépoussiéré, cette fois que nous présente Naïma Benchemann. Quand on arrive en ville.
Starmania, le célèbre opéra rock, s'offre un sacré coup de jeune plus de 40 ans après la première représentation. Et derrière ce retour, c'est Raphaël Amburger, le fils de Michel Berger et de France Gall, qui est aux manettes et à la mise en scène, le prodige Thomas Joly.
Une grande excitation, moi, à enfin permettre au public de se réapproprier ce monument. Vous pouvez compter sur, effectivement, la production et l'équipe que nous sommes pour avoir dégoté les talents à la hauteur de l'œuvre.
Côté casting, aucun nom n'a encore été révélé. La vraie vedette, c'est Starmania, son histoire visionnaire et son énergie folle. J'ai
besoin d'amour. Pour donner vie à cette fresque, il nous fallait des décors, il nous fallait un travail de lumière vertigineux à la mesure de l'ambition originelle de Starmania, qui est sous-titrée Opéra Rock. Et peut-être que pour la première fois, on va avoir comme ça cette énormité spectaculaire.
Des moyens dignes d'une super production, plus de 40 artistes sur scène. Cette nouvelle version s'annonce déjà Starmaniac. J'aurais voulu être un artiste.
Voilà, Starmania, t'as quelle fin de journal, dis donc, grandiloquent. Oui, donc l'avant-première, c'est le 7 octobre à Nice et ce sera jusqu'en janvier 2023 à la scène musicale à Paris.
Voilà, notre artiste du 7h30, Romain Nocquet, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à 9h. Dans un instant, le livre du jour, les films de la semaine, Laurie Choleva et l'édito international de Vincent Hervouet, plongé dans les eaux troubles de la mer Baltique ce matin.
Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
Dans un instant, les perles de culture de nos deux explorateurs du jour, Nicolas Caro, pour un premier roman qui vous a beaucoup plu, je crois bien.
Exactement, et je vous emmène manger une grande frite, un coca et des nuggets.
Ah, parfait.
Dans un fast food. Ah,
ça plaît. Le moi, menu ça plaît bien à Laurie. Laurie Choleva pour les sorties ciné de la semaine, sans filtre.
Sans filtre, complètement, voilà. Avec une palme d'or à la clé.
C'est ça, c'est le film de Ruben Östlund.
Exactement.
Voilà, un Suédois un peu barré, mais très intéressant. Le film est complètement fou.
Drôle et cruel.
Dans un instant. Mais avant cela, les affaires du monde, Vincent Hervouet, l'édito international. En mer Baltique, il y a du gaz dans l'eau. Trois fuites détectées hier sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 au large du Danemark. Comme par hasard, des explosions sous-marines ont été enregistrées juste avant.
Oui, les réservistes fuient. Nord Stream 1 et 2 fuient aussi. Décidément, la Russie se liquéfie. Elle n'est plus étanche. Le Kremlin ne verrouille ni sa frontière, ni sa plomberie. C'est la première évidence. L'image de la Baltique qui bouillonne supplante le spectacle de république bananière donné hier dans les territoires occupés d'Ukraine avec ses référendums censés légitimer leur annexion. On regarde la mer grise avec son grand jacuzzi et on comprend instantanément une deuxième évidence. Dans la nouvelle guerre froide, l'essentiel se passe sous la surface. La bataille d'artillerie occupe les écrans du monde entier depuis 7 mois, mais dans l'ombre, la bataille souterraine entre les services secrets est implacable depuis 7 ans. Il faut des moyens lourds pour placer des explosifs équivalents à 1000 tonnes de TNT sur un 1000 kilos, pardon, une tonne donc de TNT sur un tube en acier blindé posé à 100 mètres de profondeur et le faire sauter. C'est pas le sabotage du Rainbow Warrior à Marais à quai, c'est une opération militaire beaucoup plus technique qui réclame des robots, des bâtiments de haute mer, des nageurs de combat, etc. C'est du terrorisme, mais ce n'est pas à la portée d'un simple terroriste. Cet attentat aveugle a été commis par un État et pas n'importe lequel.
Oui, la Russie a été immédiatement dénoncée par les Ukrainiens.
Réflexe conditionné de la propagande, l'ennemi est capable de tout. Les médias occidentaux ont repris l'accusation en attendant d'en savoir davantage. Mais on a du mal à comprendre le raisonnement. Kiev prétend que les Russes sabotent leur propre gazoduc pour déstabiliser l'Europe. La Russie n'a pas besoin de faire sauter ses installations et de commettre l'irréparable. Il lui suffit de fermer le robinet pour faire chanter l'Europe. S'il s'agit de faire monter les cours, pourquoi s'attaquer à Nord Stream qui n'a jamais été mis en service alors que c'est à l'Asie qu'elle vend désormais son gaz?
Quelles hypothèses on peut faire? Quelles autres hypothèses, Vincent?
La première, c'est la provocation. Une vidéo a ressurgi hier sur les réseaux sociaux. Elle date de février. On y voit Joe Biden expliquer qu'en cas d'invasion de l'Ukraine, les États-Unis détruiraient Nord Stream 2. Vidéo complétée par des photos de bâtiments américains spécialisés dans le travail offshore qui se trouvaient soi-disant hier dans la même zone maritime. Tout ça reste à vérifier. Les Américains, en tout cas, se retrouvent ainsi soupçonnés d'un sabotage qui relève de la guerre hybride. C'est donc ça, la provocation. L'autre version, c'est que tout attentat aveugle est une lettre anonyme qui dit « Arrêtez-vous, nous pouvons vous faire un tort considérable ». Dans ce cas précis, un réseau sous-marin stratégique a été mis hors service. C'est la première fois au monde. Il y en a bien d'autres, des réseaux souterrains. Il y a les câbles télécoms, les liaisons électriques, les milliers de kilomètres, des 400 câbles à fibre optique par lesquels le monde entier se connecte. Autant d'installations vulnérables dont la destruction provoque une crise inédite aux conséquences incalculables. Nous voilà prévenus. On sait désormais, en tout cas, qu'il y a des pirates au fond des mers et qu'avec la guerre en Ukraine, le pire a de l'imagination.
Voilà, et en fait, les spécialistes au sein de l'armée russe de ça, c'est la division 29. On fera connaissance, grâce à Nicolas Tonev tout à l'heure, dans le journal de 8h avec ces pirates des fonds marins. Merci beaucoup, Vincent Hervouet. 7h46.
Europe Matin.
Littérature, Nicolas Caro, vous nous emmenez donc au fast-food pour le petit-déj. Est-ce bien, c'est pas bon pour la santé ça, non?
En salle, c'est le titre de ce roman aux éditions de Minuit, premier roman de Claire Baglin, 24 ans. Ça commence avec une scène d'action digne d'un Tom Cruise qui court dans Mission Impossible. Sauf que ce n'est pas Tom Cruise, c'est un gamin qui hurle et qui se rue. Il est suivi par sa sœur et ses parents. Tout le monde court. Les deux premiers pour arriver vite, les deux autres pour ne pas les perdre de vue.
Mais où court-il donc comme ça?
Au fast-food, donc. Mais du genre très connu. Et les gamins, pour eux, c'est exceptionnel. C'est très rare que les parents acceptent. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Nuggets, grand coca, grande frite, le paradis.
Bon, c'est un roman qui fait l'éloge de la malbouffe.
Pas vraiment, mais qui reconnaît que quand on est enfant, le fast-food, c'est ce qui se rapproche le plus du sublime. En fait, dans En salle, deux récits alternent, mais pas chapitre par chapitre, ça s'enchaîne. C'est-à-dire qu'on saute juste une ligne et on se retrouve de nos jours. Avant, c'était les souvenirs d'une jeune femme qui se remémore son enfance dans une famille modeste et qui, de temps en temps, avait la joie immense d'aller manger un menu enfant avec un jouet dedans. Et l'autre récit, c'est de nos jours, la même jeune femme qui se fait embaucher dans une grande chaîne de fast-food et qui raconte.
Que raconte-t-elle?
Eh bien tout. Ça commence avec l'entretien. Donnez-moi un défaut, lui demande le recruteur.
Super question.
J'ai pas beaucoup d'expérience, elle répond. Non, un vrai défaut, cherchez bien. Il veut qu'elle lui parle de l'honneur qu'elle ressent de pouvoir peut-être un jour travailler dans son équipe. Il se prend très au sérieux. J'ai une centaine de candidatures, dit-il. On a l'impression qu'il lui fait passer un entretien pour diriger une multinationale. Elle a envie de lui dire, moi je veux juste gagner ma vie, mais je peux pas dire que je sois fan non plus de la fabrication des hamburgers à la chaîne. Mais elle ne le fait pas et elle est prise. Et elle nous décrit les vestiaires, la formation, les clients qui veulent des croque-monsieur mais sans jambon, le mana, vous savez ce que c'est un mana?
Non.
C'est un manager.
Ah.
On rigole bien et puis au fur et à mesure, on rigole moins et elle démontre par ce roman les similitudes entre ce travail-là, digne mais ingrat et mal considéré, et celui de son ouvrier de père parce qu'on continue à suivre en parallèle l'histoire de son enfance tout au long du livre. Premier roman très percutant, très intelligent, très bien fichu. Retenez le nom de l'auteur, à mon avis.
Claire Baglin, B-A-G-L-I-N. Voilà, En salle, c'est paru chez Minuit. Laurie Choleva, le cinéma. Oui. Une chronique sans filtre, donc, cette semaine, promise.
Eh oui, plus que jamais, puisque c'est la sortie du film événement, la dernière Palme d'Or du Festival de Cannes, sans filtre, donc le film de Ruben Östlund, qui avait déjà reçu une Palme d'Or pour son précédent film, The Square. Il entre donc dans ce cercle très prisé des doubles palmés. Alors, sans filtre, c'est un film ovni, c'est drôle, c'est cruel, et le pire, c'est qu'on en redemande. Le film démarre par une dispute interminable entre deux mannequins au restaurant pour savoir qui doit payer l'addition. Une scène qu'on a peut-être tous vécue à un moment de notre vie. est-ce à l'homme de payer ou à la femme? Le couple n'en finit pas de se chamailler depuis le restaurant jusqu'à la chambre d'hôtel. Le ton est lancé et pourtant, là on pense que Ruben Östlund va nous proposer un film sur le monde de la mode. Et finalement, il nous embarque sur un yacht de luxe. On retrouve ce même couple de mannequins, enfin mi-mannequins, mi-influenceurs, au milieu de milliardaires. Et là, malheureusement, la jolie croisière va tourner au cauchemar. Alors, Sans filtre, c'est vraiment une satire acerbe de la société moderne. C'est fait avec finesse, talent et surtout énormément d'humour. Je vous parle de la croisière. Il y a une scène d'anthologie sur le bateau pris en pleine tempête qui tangue très fort. Et forcément, on est quand même tous égaux face au mal de mer. Hein. Qu'on soit riche, pauvre, capitaine ou passager, ça termine généralement au WC. Et je vous en dis pas plus parce qu'il est beaucoup trop tôt.
Ah, c'est un peu la grande bouffe avec un côté Monty Python.
C'est ça.
Voilà, pour ceux qui avaient vu le The Meaning of Life, le sens de la vie, la scène au restaurant, il y a un petit côté comme ça, semble-t-il. Alors, Libération n'a pas aimé, ce qui, à mon sens, est peut-être assez encourageant.
Voilà,
J'ai rien compris.
Je n'ai
pas compris ce qu'ils ont pensé du film, en fait. Voilà, longue chronique, bien écrite, mais incompréhensible. Bon, Laurie, dans un autre style plus inoffensif,
oui.
Jumeaux, mais pas trop.
Oui, une comédie douce, drôle, avec Ahmed Silla et Bertrand Huskla, qui découvrent à 33 ans qu'ils sont frères et qui plus est, jumeaux. Et le problème, au-delà de la non-ressemblance physique, c'est que tout les oppose. Alors écoutez, Ahmed, que je recevais dans Clap samedi dernier, en parler.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que ils sont allés à l'encontre de tous les clichés, de toutes les caricatures que pouvait laisser supposer ce pitch de départ. Vraiment, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à un film voilà, où on va faire des vannes sur les noirs, sur les blancs, les mettre en confrontation, monter tout ça en épingle, monter tout ça en exergue. Et non, en fait, voilà, on rit ensemble et pas contre. Et il y a une vraie intelligence sur ce film.
J'ai beaucoup de tendresse pour ce film. Le duo fonctionne à merveille. Bertrand Huskla, c'est son premier grand rôle au cinéma. On l'a connu dans le programme court Brut sur Canal+. Et le film a reçu le prix du public au dernier festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Allez-y, avec une scène également merveilleuse où Ahmed Silla nous fait verser une larme. Et cette chanson, je voulais vous le faire, c'est un cadeau. Parce que de bon matin, ça fait plaisir d'écouter Natacha Saint-Pierre. Oui.
Maladresse et de l'amour plus qu'il en faut.
Elle n'est pas dans le film, mais il y a une très jolie scène où on verra Ahmed Silla comme on ne l'a jamais vu.
Voilà, et transformation réussie pour Bertrand Huskla, paraît-il, parce que du cours au long, c'est pas toujours facile de passer, et lui, il le fait avec brio.
C'est vrai.
Et d'ailleurs, Ahmed Silla, Bertrand Huskla, ils étaient chez Philippe Vandel dans Culture Média sur Europe 1 il y a deux jours. C'est à retrouver sur votre appli Europe 1 et sur europe1.fr, évidemment. Merci Laurie Choleva.
Avec
bonne
plaisir.
Semaine, à mercredi
à semaine prochaine.
7h51.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité sur Europe 1, c'est le journal permanent. Alban Le Prince.
Y a-t-il eu sabotage en mer Baltique? La présidente de la Commission européenne en est convaincue et promet une réponse ferme. Après la détection de fuites dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2 hier à la suite d'enregistrements d'explosions sous-marines. Ce sera niet. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, refuse de négocier avec Moscou. Après les référendums d'annexion de territoires ukrainiens par la Russie dont les résultats ont été dévoilés hier, le oui l'a emporté à plus de 90%. En France, le ministère de la Santé publie ce matin une étude. Plus de 4300 lits d'hospitalisation complète ont été fermés l'année dernière. Dans le même temps, 2700 places d'hospitalisation partielle ont été créées.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
C'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri.
Chance, on vous a trois jours d'affilée cette semaine. Ce sera Alexis Brézet demain. Du Figaro donc, le garde des Sceaux a poussé un coup de gueule contre la justice privée hier en rappelant qu'en France, il n'y a pas de code de déontologie, il n'y a que le code pénal. Alors Éric Dupond-Moretti songeait dans cette déclaration au cas d'Adria Quatennens ainsi qu'à l'affaire Julien Bayou.
Alors, je ne voudrais pas vous paraître désagréable, Dimitri, mais il n'y a pas d'affaire Bayou. Pour qu'il y ait une affaire, il faut qu'il y ait une plainte, un dossier, une instruction, des confrontations. Dans cette histoire, il n'y a rien de tout cela. Ça me rappelle le début du procès. Vous savez, le célèbre livre de Kafka, ça commence comme ça. Sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté au matin. Julien Bayou n'a pas été arrêté, mais il a dû démissionner des instances de son parti et de son groupe, de la tête de son groupe parlementaire. Alors, selon Sandrine Rousseau, il a exercé des violences psychologiques sur sa femme. Mais Sandrine Rousseau n'est pas juge d'instruction. Donc, hors ce témoignage, on ne sait toujours pas ce qu'on lui reproche. Moi, je ne sais rien des actes de M. Bayou. Et je vais vous dire les choses très directement, très franchement, je ne veux rien en savoir, ça ne m'intéresse pas. Solzhenitsyn, qui s'y connaissait en totalitarisme, disait qu'on devait joindre au droit de savoir le droit de ne pas savoir. Eh bien, pour la vie intime de M. Bayou, je revendique le droit de ne pas savoir. Soit c'est privé et ça doit le rester, soit ça devient judiciaire et c'est à la justice de s'en occuper.
Mais Vincent, il n'y a pas que Sandrine Rousseau. Hein. La cellule d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes d'Europe Écologie Les Verts s'est auto-saisie à la suite du courriel envoyé par l'ex-compagne de Julien Bayou.
Oui, alors c'est parfois difficile de faire confiance dans la justice de son pays, mais finalement, on n'a rien trouvé de mieux jusqu'ici. En revanche, je n'ai aucune confiance dans les cellules d'enquête internes, les comités de fortune, les tribunaux bidons, dont on ne sait ni le fonctionnement ni les objectifs réels. Bayou a, je crois, demandé à 4 reprises à être reçu par cet étrange tribunal pour s'expliquer et on lui a refusé. En fait, ce qu'on découvre avec ces affaires, c'est que les Verts, les Insoumis, c'est la vie des autres. Vous vous souvenez, hein, Dimitri, cet excellent film qui décrivait un espion de la Stasi qui écoutait jour et nuit l'appartement d'en dessous. Bah là, c'est l'opinion qui est prise à partie pour entrer dans la chambre à coucher ou pour assister aux engueulades dans la cuisine. Mais finalement, c'est pas très nouveau. Hein. Cette gauche a la passion de la surveillance depuis très longtemps. Je voudrais vous rappeler la phrase de Benoît Hamon, c'était au sujet de Nicolas Sarkozy. « Si on n'a rien à cacher, il n'y a pas de problème à être écouté », disait Benoît Hamon. Et oui, si on n'a rien à cacher, il n'y a pas de problème à être écouté. C'est beau comme du Robespierre.
Alors tout cela est sans doute excessif, mais c'est finalement un retour de balancier, Vincent, cette lutte contre les violences faites aux femmes. C'est le sens de l'histoire ?
Non, moi, il me semble que le sens de l'histoire est plus à Téhéran que dans les comités de la France insoumise. Que la danse des Iraniennes cheveux au vent mérite plus notre attention, notre soutien et notre admiration qu'un tweet de Sandrine Rousseau, même s'il est en écriture inclusive. Mais finalement, la liberté pour ces gens, c'est pas vraiment leur truc. Hein. D'ailleurs, ce sont les mêmes qui dénoncent sans cesse la police et qui se comportent en shérif de la vertu. S'ils avaient plus de pouvoir, croyez-moi, ils feraient déborder les prisons. Mais en fait, il suffit de les lire pour comprendre. Ils le disent sans se cacher. Pour eux, le droit est un obstacle à ce qu'ils appellent la destruction du patriarcat, tout comme la démocratie est un frein à la révolution écologique. C'est une logique ouvertement tyrannique. Elle devrait tous nous inquiéter. Et Éric Dupond-Moretti a 1000 fois raison de vouloir siffler la fin de la récréation.
Merci Vincent Trémolet-Villers pour votre regard, votre édito tous les matins sur Europe 1, de lundi au vendredi. À la une du Figaro, votre journal, je le signale, Poutine orchestre l'annexion d'une partie de l'Ukraine. 7h56.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Ces annexions d'une partie significative du territoire ukrainien par la Russie, on va en parler avec l'invité de Sonia Mabrouk à 8h13, Jean-François Colosimo, spécialiste de l'histoire de l'orthodoxie et écrivain. 7h56. Mardi 28 septembre, il est 8h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Nord Stream 1 et 2 ont-ils été sabotés ? Eh bien pour l'Europe, c'est évidemment oui. La mer Baltique est en ébullition sur 1 km². Impressionnante fuite sous-marine sur les gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne. La Russie est-elle derrière cette action ? On va essayer d'y voir plus clair avec Nicolas Tonev, notre spécialiste Russie. Électricité, farine, beurre trop cher, des boulangers littéralement pris à la gorge par l'inflation. Ferme boutique, reportage européen dans le Nord dans un instant. Et puis attention à l'indigestion, dîner de travail sur la réforme des retraites à l'Élysée ce soir. L'objectif, tenter de trouver une méthode alors que plusieurs manifestations sont programmées demain. À 8h13, votre invité Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, l'historien des religions Jean-François Colosimo, il publie un livre majeur, La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe. Alors ce matin, si vous voulez comprendre d'où vient ce conflit et surtout où l'on va avec cette guerre, vous restez à l'écoute de l'interview. À tout à l'heure.
Le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Oui, c'est un sabotage. C'est en tout cas la conviction d'Ursula von der Leyen pour la présidente de la Commission européenne. Ces fuites de méthane sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la mer Baltique, qui provoquent depuis hier d'immenses bouillonnements sur 1 km², ne sont pas accidentelles. Thèse renforcée par les explosions sous-marines enregistrées à l'endroit des fuites. Kiev dénonce une attaque terroriste de Moscou. Bonjour Nicolas Tonev.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste européen de la Russie. Alors pour l'heure, rien ne prouve que Moscou serait responsable de ces explosions. Le Kremlin se dit d'ailleurs très préoccupé. Cela dit, Nicolas, les Russes sont les seuls au monde capables de mener ce genre d'opération de sabotage à n'importe quelle profondeur grâce à une flotte de sous-marins spéciaux uniques.
Oui, une dizaine d'engins qui appartiennent à la GUGI, la direction des plongées et études en eau profonde du ministère de la Défense. Cette 29e division autonome, basée près de Mourmansk dans le Grand Nord, est chargée de missions ultra secrètes, exploration, reconnaissance, sabotage à grande profondeur. Alors seules quelques informations filtrent sur ces sous-marins, mais elles donnent une idée de leurs capacités hein, pour les AS-13, 15 et 33 cachalots, propulsion nucléaire, coque en titane, équipe de plongeurs avec sas de recompression, des bras manipulateurs également pour découper des objets. Le fleuron de cette flotte est le Locharik, un engin de plus de 60 mètres nucléaire, déplacé par un sous-marin porteur géant sur son lieu de travail. Le Locharik pourrait plonger jusqu'à 6000 mètres et se livrer à des opérations de sabotage à cette profondeur. Lors d'un accident entraînant la mort de 14 marins, Vladimir Poutine a reconnu que cet engin était inhabituel. Ces sous-marins sont secondés par le Yantar, un navire qui met en œuvre des robots et des scaphandriers. En théorie donc, aucun tuyau et aucun câble sous-marin dans le monde n'est hors de portée, si besoin, de cette redoutable 29e division.
Nicolas Tenev, spécialiste européen de la Russie. Ce chiffre éloquent ce matin sur Europe 1, 66 000 Russes sont entrés dans l'Union européenne la semaine dernière, selon l'agence Frontex, 30% de plus que la semaine précédente, conséquence directe de la mobilisation annoncée par Vladimir Poutine. Moscou, de plus en plus isolé, même ses alliés indiens et chinois se raidissent après les référendums d'annexion menés en Ukraine. New Delhi a fait part de la profonde inquiétude quant à la tournure que prend la guerre. L'ambassadeur chinois aux Nations Unies a appelé hier, quant à lui, au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays. Et pendant ce temps, le Kremlin, lui, se félicite de sa victoire à l'issue des pseudo-référendums organisés en Ukraine. 4 régions, 4 oui à Zaporijia, Kherson, Lugansk et Donetsk. Plus de 90% d'avis favorables à l'annexion russe. Résultat d'un simulacre d'élection qui n'a aucune valeur pour les Occidentaux. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain.
Nous ne reconnaîtrons pas et nous ne reconnaîtrons jamais l'annexion de territoire ukrainien par la Russie. Et j'ai été tout aussi clair sur le fait que l'Ukraine a absolument le droit de se défendre sur tout son territoire, y compris pour reprendre les territoires qui ont été illégalement saisis d'une façon ou d'une autre par la Russie.
Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, avis partagé par la ministre des Affaires étrangères en déplacement à Kiev. Catherine Colonna a assuré hier que la France et l'Union européenne prendront des sanctions. Il est 8h04 sur Europe 1. Va-t-on vivre le remake de 2019 ? Des manifestations à répétition contre la réforme des retraites. Le sujet est à nouveau sur la table et il crispe les partenaires sociaux.
Oui, et pas que. Au sein même du camp présidentiel, hein, l'avenir des retraites divise. Alors ce soir, Emmanuel Macron réunit plusieurs ministres, chefs de parti alliés de groupes parlementaires de la majorité autour d'un dîner à l'Élysée. Au menu, la méthode. Comment faire passer la réforme des retraites sans braquer l'opinion publique? Mobilisation à l'appel des syndicats programmée demain. L'ampleur pourrait être limitée. Ce qui ferait les affaires d'Emmanuel Macron, Arthur Delaborde.
Oui, selon nos informations, le service central du renseignement territorial anticipe un faible nombre de manifestants demain contre cette réforme des retraites. Seulement 68 à 75 000 personnes devraient défiler dans tout le pays, dont 4 à 8 000 à Paris. Ces projections nous confortent dans l'idée qu'il faut aller vite, avance un ministre. Malgré les critiques qu'elle a suscitées dans la majorité, la piste de l'amendement au budget de la Sécu reste sérieusement envisagée par le président. Mais désormais, un nouveau scénario est à l'étude. Faire passer la réforme dans un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Le texte serait alors présenté au début de l'année prochaine. Si cette formule pourrait donner l'impression qu'Emmanuel Macron recule en n'allant pas aussi vite qu'il l'espérait, elle présente aussi plusieurs avantages pour le chef de l'État. Utiliser le 49-3 sans difficulté, tout en laissant du temps à la concertation, ce qui calmerait la grogne au sein de la majorité, explique un conseiller. Le président devrait donc prendre sa décision finale en fin de semaine. D'ici là, un dîner est prévu ce soir sur le sujet à l'Élysée avec les ministres concernés et les poids lourds de la majorité. Emmanuel Macron devrait aussi en parler avec François Bayrou qui n'a cessé de répéter son hostilité à tout passage en force. Il se déplacera vendredi matin chez le patron du Modem à Pau.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
De son côté, Elisabeth Borne est attendue à Compiègne dans l'Oise aujourd'hui à la rencontre des acteurs de la filière hydrogène. L'objectif défendre l'industrie mais aussi l'indépendance énergétique de la France à l'heure où les factures explosent.
Une flambée des prix de l'électricité et du gaz qui tombe comme un couperet pour de nombreux chefs d'entreprise. Illustration à Armentières, dans le Nord, 2 des 8 boulangeries du centre-ville et du quartier Saint-Roch vont fermer cette semaine. Reportage de l'un des correspondants d'Europe 1 dans la région, Maximilien Carlier.
La trancheuse à pain ne fonctionnera bientôt plus dans cette boulangerie artisanale située quartier Saint-Roch. Cela fait plus de 10 ans que Delphine et Pascal tiennent ce commerce.
Ah, c'est notre bébé qu'on a porté pendant 11 ans. C'est pas évident de fermer.
C'est dur, mais c'est un bon choix à l'heure actuelle.
En cause, l'augmentation du prix de l'énergie.
Vous voyez, je vous ai sorti les factures d'électricité. Ce n'est pas des petites factures. Nous sommes sur le mois de juillet, donc on a quand même une facture de 943,87 €. Au mois de mai, 1 725 €. On a augmenté, d'après nous, de 40%.
À moins d'un kilomètre de là, dans le centre-ville, une autre boulangerie ferme dès ce soir. Dimitri, responsable de la Micaline.
L'inflation y est beaucoup. Tout ce qui est beurre, par exemple, beurre, mayonnaise, enfin tous ces produits-là, en fait, ne cessent d'augmenter. Et on ne peut pas éternellement augmenter nos produits. Après, c'est les clients qui vont en pâtir.
Ils pourront se tourner vers les autres boulangeries alentour. Ça sera plus compliqué, en revanche, pour les habitants de Saint-Roch, car c'était le dernier commerce du quartier. Armentières, Maximilien Carlier, Europe 1.
Allez, un peu de rêve pour terminer ce journal sur Europe 1. On va vous mettre des étoiles, que dis-je, des diamants dans les yeux.
Direction le Palais de Tokyo à Paris, où vous pouvez découvrir en ce moment l'un des plus gros diamants taillés au monde. C'est la première fois que ce musée présente ce type d'exposition. Elle est consacrée au bijoutier Fred. 450 merveilles, dont ce fameux soleil d'or que Marie Jiquel a pu contempler.
On pénètre prudemment dans cette salle ronde. Il s'agirait de ne rien faire tomber. Murs plaqués or, moquette au sol et vigile sous pression puisque derrière ces rideaux dorés se trouve...
Le Yukun Kun, le plus gros diamant du monde, il est là.
Mieux que le Yukun Kun du film Le Cornio, le soleil d'or, un diamant jaune brillant de mille feux de la taille d'un glaçon au charisme hypnotique.
Un trésor.
Valérie Samuel, vice-présidente de la maison Fred, est la petite fille du bijoutier Fred Samuel.
En 1977, on le trouve aux États-Unis, nous le vendons et quelques mois avant l'exposition, nous le retrouvons et en faisant son acquisition pour la deuxième fois. Alors, on l'a retrouvé dans une collection privée, le propriétaire n'était pas vendeur, mais quand il a su que c'était nous, et quand il a su que c'était le soleil d'or, parce que je ne suis pas sûre qu'il savait exactement ce qu'il avait entre les mains, il a accepté de nous le céder.
101 carats qui représente 20 grammes, mais 20 grammes qui pèsent lourd dans le porte-monnaie. Ne demandez pas son prix, on vous répondra que sa valeur est inestimable.
Diamonds are girls' best friends. Les diamants sont les meilleurs amis des femmes. Et oui, Marilyn Monroe, pour bien conclure cette balade de luxe au Palais de Tokyo, signée Marie Jiquel. On note quand même que c'est gratuit, hein, cette expo. Un mot de basket.
Mais sur réservation.
Mais sur réservation. Voilà. Un mot de basketball pour terminer. Le mondial féminin se poursuit en Australie. Les Bleus ont évité de faire face aux Américaines, mais demain, elles seront quand même en quart de finale face à la Chine. C'est à 10h.
On doit mille fois plus estimer une dent qu'un diamant. Proverbe espagnol.
Très, très beau proverbe.
Très terre à terre.
Très utile, bien plus utile, ben oui, les dents que les diamants.
Proverbe pragmatique. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, direction l'Ukraine, avec notre invité ce matin, l'écrivain spécialiste de l'orthodoxie, auteur d'un ouvrage passionnant sur l'Ukraine. Jean-François Colosimo est l'invité de Sonia Mabrouk.
Europe 1.
Votre invité, Sonia Mabrouk, est à la fois historien, éditeur, documentariste, théologien. Vaste savoir.
Et auteur de ce livre, La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe, chez Albin Michel. Bonjour à vous, Jean-François Colosimo.
Bonjour.
Nous allons évidemment évoquer ce livre qui pose la question majeure d'où vient ce conflit. Mais tout d'abord, la question ce matin, c'est d'où viennent les sabotages des gazoducs Nord Stream. Quand on pose cette question, il faut poser la question aussi, quels intérêts cela sert-il ?
Oui, alors évidemment, on a très envie de désigner Moscou et la Russie. Pourquoi ? Parce que le chantage de Poutine est total et il est d'abord énergétique. Cette guerre, c'est aussi une guerre de l'énergie. Il y a le pétrole, il y a le gaz et il y a les grandes voies, en fait, aussi pour acheminer ces énergies. Vous voyez, quand il s'est emparé, il y a déjà longtemps, de la Géorgie, la Géorgie, toute la question du Caucase, c'est la question des pipelines, là encore. Mm-hmm. Donc on a affaire vraiment à une sorte de grand Kriegsspiel planétaire. Maintenant, Il faut noter que les États-Unis, pour l'instant, ne confirment pas que ce sabotage serait russe. Or, on sait leur capacité satellitaire d'observation, etc. À qui profite ce crime ? C'est bien la question. Mais nous voyons que notre hiver risque d'être encore peut-être plus rude que ce que nous pensions.
Et précisons que pour réaliser un tel sabotage, il est évident qu'il faut une très grande technicité, une très grande expérience. Ce n'est pas une simple manœuvre de sabotage.
Non, ce n'est pas trois sympathiques dissidents et contestataires qui sont allés percer un tuyau. C'est une véritable opération militaire, hautement technique, vous l'avez dit, et donc qui engage la responsabilité d'un État, lequel peut-être la Russie, vraisemblablement la Russie, mais encore une fois, ce que nous avons appris, c'est qu'avec le Kremlin de Vladimir Poutine, nous devons nous attendre à tout.
Alors, nous attendre à tout, et cela signifie, Jean-François Colosimo, qu'il faut qu'on comprenne d'où vient ce conflit. C'est vraiment l'enjeu de votre livre, je disais tout à l'heure à Dimitri Orantane, un livre majeur, parce qu'il nous explique en réalité que ce conflit suit toute l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire ?
Alors, écoutez, pour aller très très vite, l'Empire romain se divise en deux. Il y a les invasions barbares, et puis il y a deux réalités qui naissent. Une Europe orientale, une Europe occidentale. Vers le 9e siècle, le sacre de Charlemagne, quand d'un coup cet Occident qui a été malmené par les barbares ressort avec une nouvelle réalité spirituelle, religieuse, politique, et qui se met en concurrence avec Constantinople, aujourd'hui Istanbul, mais c'est l'Empire romain d'Orient, eh bien les missionnaires byzantins et carolingiens, ils s'affrontent pour conquérir les Slaves, pour les évangéliser, et leur ligne de choc, leur ligne de front, eh bien elle va courir de Split, de là-haut, de Riga, les Pays-Baltes, sur la Baltique, à Split, aujourd'hui en Croatie, la Méditerranée, elle zigzague, elle sépare les Polonais et les Biélorusses, elle sépare les Croates et les Serbes, pourtant c'est le même peuple. D'un côté, vous avez la confession catholique et l'alphabet latin, de l'autre, la confession orthodoxe et l'alphabet cyrillique. Ce sont deux univers, et cette ligne, elle traverse l'Ukraine, la coupe en deux, et vous avez un ouest catholique et un est orthodoxe, Kiev au milieu, l'Ukraine intériorise le drame européen parce que sur cette ligne, tous les grands empires sont venus s'affronter. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Et en plus, les populations qui sont de chaque côté de cette ligne, eh ben, elles ont valsé. Un coup, c'était l'Empire russe, il fallait qu'elle soit orthodoxe. Un coup, c'était l'Empire austro-hongrois, il fallait qu'elle soit catholique. Un coup, c'était la Prusse, il fallait qu'elle soit protestante.
Quel pays particulier quand même, Jean-François Colosimo, que l'Ukraine. Vous écrivez que ce pays a servi d'arène à la confrontation des trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, et aussi entre les trois confessions chrétiennes, orthodoxes, catholiques et protestantes. C'est explosif en réalité.
C'est explosif, ça n'a pas arrêté d'exploser. C'est pour ça que si on veut faire l'histoire politique de l'Ukraine, des gens vont dire, mais enfin bon, il y a eu une principauté au XIIe siècle, puis ça disparaît des radars, et puis ça réapparaît vers le 19e siècle avec les nationalismes européens, le romantisme des peuples. Donc votre Ukraine n'existe pas. Mais bien sûr qu'elle existe, parce que si vous faites l'histoire religieuse au lieu de faire l'histoire politique, alors vous voyez qu'il y a une entité qui, sur des siècles, cherche son indépendance. Son problème, c'est quoi ? C'est qu'elle cherche une indépendance nationale et qu'elle est au milieu des empires, n'est-ce pas ? Et particulièrement avec cet empire russe qui a besoin de cette ville, Kiev, parce que la Russie, elle est orthodoxe, mais ça ne s'est pas passé à Moscou, ça s'est passé là-bas. Et il y a donc une espèce de dimension d'appropriation symbolique qui va être constante et qui débouche sur le drame d'aujourd'hui, en sachant que les Ukrainiens sont à 70% orthodoxes, mais qui sont divisés entre ceux qui veulent encore être avec Moscou, ils sont de moins en moins nombreux, et ceux qui voulaient avoir leur propre église pour affirmer quoi ? Ben, le fait qu'ils ne sont pas soumis. Donc, vous voyez, à partir de 1991, vous avez une espèce d'angoisse impériale de la Russie qui se voit diminuer, et vous avez une espèce d'angoisse nationale de l'Ukraine qui veut exister.
Cette lecture nous éclaire sur aujourd'hui, Jean-François Colosimo. Vous avez parlé de ceux qui restent pro-russes, il y en a, ils ne sont pas nombreux, vous le dites. Ça éclaire aussi l'actualité sur les résultats des référendums d'annexion, avec des résultats en moyenne autour de 90%, oserais-je dire des résultats soviétiques, des référendums qualifiés de mascarade par l'Occident. Et après, à part menacer de sanctions, que va-t-on faire pour ces territoires ?
Alors, le problème, d'abord, c'est que ces territoires, contrairement au pari qu'avait fait Vladimir Poutine, puisque en fait, il a incendié ces territoires depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, n'est-ce pas ? Mais c'est tout le problème de Poutine, c'est qu'il a confié le boulot à des satrapes locaux, des mafieux, etc. Et en fait, quand les troupes russes arrivent en 2022, elles trouvent des populations qui sont complètement harassées d'avoir été soumises aux raquettes, je plaisante pas, d'avoir vu leurs filles violée par des soudards, enfin, etc. Donc il y a un rejet, contrairement à ce qu'il pense, c'est là où échoue son opération spéciale, arriver en 3 jours à Kiev et changer le régime. Ces populations, aujourd'hui, elles se veulent ukrainiennes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne veulent pas vivre sous Poutine. Elles voient ce qui se passe, en plus, depuis le début de la guerre sous Poutine. Une opposition en prison ou en exil, l'élimination des opposants, et puis il y a cette promesse européenne. Donc là-dessus, il a complètement perdu. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ce référendum de manière précipitée ? Mais parce qu'il veut intégrer, parce qu'il est toujours dans la fiction juridique. Donc, il veut montrer à l'Occident que lui aussi est occidental, même il détourne tout, juste, il veut annexer, parce qu'une fois que le Donbass sera russe, alors les troupes ukrainiennes seront des troupes d'agression, dans son esprit. Et il pourra répliquer au maximum.
Voilà pour la fiction de Vladimir Poutine. Mais n'y a-t-il pas, et je vous pose la question, une fiction, en tout cas une volonté de la part des Occidentaux de voir un Poutine presque perdant, acculé, très affaibli? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir un grand animal blessé qui peut devenir encore plus irrationnel qu'aujourd'hui?
Je crois que, d'abord, on a toujours un peu sous-estimé que oui, Poutine pourrait être remplacé, mais il pourrait être remplacé par pire que lui. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Il y a autour de lui, dans les services, dans l'état-major, etc., des gens qui n'ont même pas son expérience internationale et qui sont véritablement sur une espèce de pulsion identitaire et belliciste totale.
Jean-François Colosimo, ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut penser à l'après-Poutine ne se rendent pas compte qu'il peut y avoir pire que Poutine.
Bien sûr. Bien sûr, parce que la société russe, malheureusement, n'est pas mûre. C'est une société qui n'a jamais connu la démocratie, au sein de laquelle commençaient à émerger des classes moyennes à Moscou, à Pétersbourg. On les a vus défiler souvent, on les a vus manifester. Aujourd'hui, cette population, elle vit dans la terreur. Soit les jeunes sont partis, on l'a dit, ils sont au Kazakhstan, etc. Le pays est en train de se vider de toutes ses forces vives, n'est-ce pas ? C'est un des résultats de la politique de Poutine. Mais soit ils sont en prison. Regardez Navalny. Navalny, lorsque, c'est-à-dire après la tentative d'empoisonnement, pourquoi il reste pas en Allemagne ? Ça, c'est très russe. Non, il faut qu'il rentre dans son pays, n'est-ce pas ? Parce que les Russes, c'est comme ça. Bon, il sait qu'il rentre pour un martyr, pour être supplicié. Aucune importance. Donc, paradoxalement, je voudrais dire qu'il y a Poutine et qu'il y a des tas de Russes, ça on ne veut pas le voir, qui nous donnent une leçon d'endurance dans le désir de démocratie. Et c'est ce pays de contraste, vous avez les
une
deux.
Une leçon
vous
donnée, avez les deux. C'est intéressant ce que vous dites, on l'entend très rarement. Leçon qui est donnée aujourd'hui, du côté russe.
Mais enfin, je veux dire, hier encore, Artyom Gamarin, un poète, pour être pas très connu, il est allé déclamer sur le YouTube russe une déclaration pacifiste. 31 ans, la police a débarqué chez lui, je plaisante pas, il a été violé devant sa copine avec des objets par les policiers. Il est traîné au tribunal, il est accusé de terrorisme et de trahison. Pourquoi est-ce qu'il est allé dire ? Parce qu'il y a cette folie russe. La folie russe, elle n'est pas univoque. Ça peut être la folie vraiment détestable et haïssable de Poutine, et ça peut être aussi cet amour des idées où on va au bout. Et ça, je crois qu'on ne le voit pas assez.
Vous expliquez par ailleurs dans votre livre, Jean-François Colosimo, que tout ce qui se passe à l'est de l'Europe a un lien étroit avec ce qui se passe au Levant.
Oui.
C'est-à-dire ?
Bah, si vous voulez, il faut se rappeler, on a quand même, nous, oblitéré Byzance. D'ailleurs, le Louvre a finalement ouvert une salle byzantine 3 jours avant le début de la guerre d'Ukraine. Bon, c'est un truc, voilà, pourquoi ? Parce que, je veux dire, c'est très simple, il y a Athènes, Jérusalem, Rome, puis pour nous, ça passe par Aix-la-Chapelle, Charlemagne, et puis ça arrive à Bruxelles, au Parlement européen. Ben non, il y a toute une Europe pour laquelle ça passe par Constantinople, et ça aboutit à Moscou, pas forcément à la Moscou de Poutine. Donc, cette opposition, on ne veut pas l'avoir. On a ni et Byzance. Mais Byzance, c'est l'Orient et l'Occident. Et Byzance, ben, c'est le Levant. Et c'est le Caucase. Alors, vous voyez, vous avez eu la guerre de Syrie, qui a précédé la guerre du Haut-Karabakh et qui aboutit à la guerre d'Ukraine. Monsieur Erdogan...
Et après, vous êtes en train de nous dire qu'il va y avoir une forme de non, de continuité.
C'est-à-dire que cette guerre, elle se rapproche de nous, parce qu'on n'a rien réglé de la question d'Orient, la fameuse question, vous savez, dont il faut être un spécialiste pour intégrer le Quai d'Orsay. Bah, il semble que ce soit une question à laquelle on ne sache plus apporter de réponse. On ne voit pas ce lien entre ces mosaïques de peuples que la chute du communisme, finalement, a rendu complètement libre. C'est-à-dire, on avait créé des nations, tracé des frontières, il y avait un chaudron de communautés, d'ethnies, de cultes en dessous. Bon, la fin du communisme fait que tout ce chaudron nous saute à la figure.
Est-ce qu'on ne veut pas le voir ? Est-ce qu'on ne le voit pas ? Parce qu'on ne veut pas le voir. Je parle, par exemple, de ce qui se passe actuellement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je posais hier, à votre place, il y avait une ministre du gouvernement, et je lui ai posé la question. Évidemment, l'Europe sanctionne la Russie, parce que la Russie a violé la souveraineté ukrainienne. Et que fait-elle avec l'Azerbaïdjan ? Au lieu de sanctionner l'Azerbaïdjan, qui foule au pied la souveraineté arménienne, ben non, on lui achète du gaz.
Absolument.
Absolument. Comment on tient alors avec de tels principes à géométrie variable ?
Alors je vais vous dire, pour moi, la principale nouvelle de la guerre d'Ukraine, évidemment on a une pensée pour les Ukrainiens en souffrance, on a aussi une pensée pour les Russes courageux qui disent non à la guerre, etc. Bon, les Ukrainiens souffrent de manière délirante et injuste, donc véritablement, ces femmes, ces enfants qui courent sous les bombes. Mais une fois qu'on a dit ça, la nouvelle de cette guerre, c'est en fait l'isolement de l'Occident. C'est-à-dire que partout dans l'hémisphère sud, on n'aime pas Vladimir Poutine, on a de très mauvais souvenirs de l'Union soviétique et on ne veut pas la guerre. Mais en attendant, on est content, même si Poutine n'est pas un personnage recommandable, que quelqu'un dise à l'Occident son hypocrisie. Vous voyez, parce que dans l'hémisphère sud, le souvenir, c'est la guerre d'Irak. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a mis tellement de temps, nous, à penser que l'Ukraine allait vraiment être attaquée, parce que la dernière fois que les Américains nous avaient dit qu'il y avait un danger imminent, c'était pas vrai. Et je pense que, vous voyez, on voyait une coalition se monter. Vous avez Poutine, vous avez Erdogan, vous avez Xi Jinping, vous avez les Iraniens, toujours, qui ont reconstitué leur archite, c'est des reconstructions impériales sur fond religieux, et ils sont tous d'accord pour se mettre ensemble
le
contre nous.
Le grand retour des empires sur fond de fondamentalisme religieux.
Absolument, parce que ces empires, bah, ils ont essayé le marxisme, et puis finalement, il vaut mieux quand même promettre le paradis pour les martyrs qu'une stèle de reconnaissance au milieu du village, tu vois. Bon, et quand on creuse, en fait, ce sont des réflexes identitaires, quand on creuse, c'est comme... L'identité maximale, c'est l'identité religieuse, parce qu'elle est absolue, elle est exclusive, elle vous promet l'immortalité, enfin, pour armer, pour mobiliser, il n'y a rien de mieux. Mais je vous dis, tous ces tyrans, ils sont d'accord pour se mettre ensemble contre cet Occident qu'ils dénoncent comme hypocrite, décadent,
etc.
Et là, on a un véritable problème, c'est que l'Occident en question, il existe, mais c'est l'Amérique, c'est elle qui décide pour nous. Et c'est ça notre problème. Et c'est ça véritablement notre problème. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes en première ligne, on va prendre très très cher pour finalement une politique que nous aussi, nous subissons.
On vous écoute avec beaucoup d'attention avec Dimitri.
Ah oui, moi j'adore. On décentre notre regard, c'est passionnant. C'est passionnant. Merci de faire ça aux
auditeurs
d'Europe 1.
L'Occident n'est pas seul au monde. On rappelle le titre du livre, La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe chez Albin Michel, et peut-être après la crucifixion, la résurrection.
Espérons-le, mais ça doit être aussi la résurrection des Russes aussi. Il faudra reconstruire l'Ukraine, mais réparer la Russie.
Ouais, la question
Merci
qui se pose, c'est la crise qui couve en Russie, va-t-elle occulter la guerre en Ukraine ? Merci Jean-François Colosimo.
Merci.
C'était vraiment passionnant. Merci d'avoir offert ça aux auditeurs d'Europe 1. Dans un instant, restez avec nous. Gaspard Proust arrive dans un instant. Et puis, petite surprise aussi, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux ou sur, vous avez l'appli europe1.fr, un nouvel épisode du podcast de Catherine Ney. Les Inséparables est en ligne depuis ce matin. Les amants de Neuilly, Nicolas Sarkozy et Cécilia. Absolument passionnant. 8h28.
Europe Matin. 7h, 9h. Dimitri. Dimitri Pavlenko.
8h31, le journal permanent sur Europe 1, Christophe Lamarre.
La piste du sabotage privilégiée par les Européens pour expliquer les fuites de gaz en mer Baltique. Les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 sont touchés. Bruxelles promet une enquête et une réponse ferme. La Russie dément toute implication. La communauté internationale ne tient pas compte du résultat des 4 référendums d'annexion en Ukraine. La victoire du oui à plus de 90% permet au Kremlin de revendiquer désormais le rattachement à la Russie des régions de Zaporijjia, Kherson, Lugansk et Donetsk. À Washington comme à Bruxelles, on promet des sanctions sévères contre Moscou. Plus de 4300 lits d'hôpitaux supprimés en France l'an dernier, selon la direction des études et des statistiques publiées ce matin. Chiffres qui traduisent une tendance de fond, puisque dans le même temps, les hospitalisations de jour et les hospitalisations à domicile poursuivent leur progression. Après l'hôpital de Corbeil-Essonnes, la ville de Caen est à son tour cible d'une cyberattaque. Les sites internet de la mairie et de l'agglomération sont inaccessibles ce matin. La municipalité assure connaître l'origine de ce piratage sans vouloir donner davantage de détails. La nuit a été agitée dans le quartier Persaigne à Alençon. Une quinzaine de véhicules incendiés et des forces de l'ordre prises pour cible par des tirs de mortier d'artifice. Violence attribuée à plusieurs interpellations dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Cuba en plein blackout, plus d'électricité. Le courant est totalement coupé sur l'ensemble de l'île après le passage de l'ouragan Yann. Le réseau électrique n'a pas supporté les rafales qui ont atteint plus de 200 km/h. La direction de Total Energy assure avoir les réserves nécessaires pour affronter la grève qui touche ses principales raffineries en France. Les salariés ont débuté hier une grève de 3 jours pour obtenir des augmentations de salaire, mouvement suivi par 70% des employés selon la CGT.
Merci Christophe. Le temps, Anissa Dadi, pluie du matin n'arrête pas le pèlerin, paraît-il.
Ouais, c'est ça, là ça va arrêter personne, il pleut partout. Alors là vraiment, il y a deux petites exceptions, c'est le nord de la France, les Hauts-de-France, le nord de la Normandie, le nord de la région parisienne, les Ardennes, le nord du Grand Est. C'est un petit peu plus calme, un petit peu plus sec aujourd'hui avec de belles éclaircies au bord de la Méditerranée aussi, entre la Côte d'Azur et les Pyrénées-Orientales. C'est sec mais avec beaucoup de vent. On parlait du vent de la tornade Yann. Hier, on a eu 201 km/h en rafale sur le Cap Corse. Aujourd'hui, ça va encore souffler fort. On attend 140 km/h du côté du Cap Corse, donc il va falloir être prudent. De la pluie donc pour tout le monde, sauf les deux extrêmes, extrême nord, extrême sud, et des températures toujours aussi fraîches pour la saison. 12 à Belfort, 16 à Paris, Brest et Rennes, 18 à Brive, 19 à Lyon, 20 à Bordeaux et jusqu'à 27 à Nice. Ce week-end, ça sera moyen et à partir de lundi, ça redevient très sympa, lumineux, ensoleillé et plus doux.
Merci Anissa, 8h34.
7h, 9h,
Europe Matin.
Les signatures Europe 1, comme tous les mercredis, c'est Gaspard Proust qui est avec nous. Bonjour Gaspard.
Bonjour Dimitri, je suis vraiment désolé, j'ai un peu la tête dans le... parce que j'ai une grosse soirée dimanche.
Ah ouais, qu'est-ce qui vous est arrivé?
J'ai des voisins italiens, alors toute la nuit j'ai entendu ça.
Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre.
Alors vraiment...
Mais c'est qui? Mais c'est Giorgia.
Mais j'ai jamais autant dansé depuis Freed from Desire, voilà, j'ai... Alors, j'ai été obligé de participer à leur truc comme c'est des réfugiés.
C'était Giorgia Meloni, pour la voix, juste je le précise. Vos voisins italiens, donc, sont des réfugiés?
Oui, oui, ils ont quitté l'Italie en 44-45. Alors, d'habitude, ils sont assez calmes, mais là, ils sont venus me chercher. Vieni, Proust, facciamo la festa. One, two, three, viva Meloni. Le père complètement bourré qui m'attrape par l'épaule. Ma Mussolini, il a fait des bêtises. Ma qui fait pas des bêtises? Hein, Proust, qui? Oui, il avait un ami allemand un peu spécial, mais c'était pour avoir des tarifs chez Mercedes. Voilà. Et alors moi j'entends ça, comme je veux pas me fâcher avec la copro, je dis si, naturally, baila morena.
Alors vous n'avez pas essayé de vous en aller
Mais si, j'ai une conscience. Dès que j'approchais de la porte, la mamma qui m'attrape par le bras. Alors Proust, un po' di prosciutto, un po' di barolo. Proust, ti piace le penne al tartufi? Ti piace? Alors c'est vrai que comme tous les antifas radiophoniques que je suis, j'ai des principes, mais bon, entre la lutte contre le fascisme et le tiramisu, moi je choisis le mascarpone. Hein,
non,
c'est...
Oui, je comprends. Non, mais le matin, vous avez bien dû avoir un créneau quand même.
Oui, oui, alors à 6h du matin, ils étaient un peu tous à fond. Il y avait un créneau, mais là, le père, il m'attrape et il dit « Non, non, Proust, on va faire un after. » Je dis « Non, non, ça suffit con la compromission, devo fare la chronica sur l'Europa 1. » Et « Mais non, Proust, on va rire, on va écouter France Inter. » Et là, le gars, il branche France Inter. Putain, c'était pas la même ambiance.
Ah,
hein. On se serait cru en Corée du Nord le jour du décès de Kim Jong-il. Hein. Mais j'avais de la peine pour eux. Non, mais c'est quand même des collègues, Pavlenko. Je veux dire, c'est des êtres sensibles, tu vois. Tu les écoutais lundi matin, t'avais l'impression qu'ils venaient tous de se faire violer par une urne italienne, tu vois. Et attention, les urnes italiennes, c'est quand même des grosses boîtes. J'ai vu ça à la télé. Alors il l'avait vu un peu venir, mais il faut être lucide. Je veux dire, à partir d'un certain volume, même la vaseline, ça reste de l'homéopathie. Hein, on les...
Non, mais il faut comprendre que Giorgia Meloni puisse faire peur à certains quand même,
mais
Gaspard.
Mais vous êtes sérieux? Elle a déclaré « Je suis une femme, je suis une mère, je suis une chrétienne ». En gros, Mélanie, c'est une Versaillaise qui parle fort en moulinant des bras. Enfin, je veux dire, on nous annonce Mussolini avec des règles, on va se taper une pécresse à la Rabiata, faut arrêter, quoi. Non, mais les gens s'excitent, même Ursula von der Schmürtz, là, il va de son couplet, ouais. Alors elle, c'est... Von der Leyen, c'est la Sandrine Rousseau en version Erasmus. Hein. Et elle, plus ça va, plus elle ressemble à un film d'Audiard. Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais putain, qu'est-ce qu'elle cause, hein, c'est... Alors, elle devait être rassurée, Ursula, parce que Meloni a fait une coalition avec Berlusconi.
Ah, Berlusconi, c'est rassurant.
Ah bah évidemment, Berlusconi, c'est la joie de vivre, c'est le Joe Biden de Portofino, tu vois. C'est... Mais ça, c'est le régime méditerranéen, huile d'olive, poisson et cagole, tu vois. C'est ça le secret, même si j'ai senti plus inquiet que d'habitude.
Ah oui, bunga bunga, bon, inquiet.
Ouais, sur l'estrade, les joues, tu sais, on aurait dit un hamster après une séance d'UV, tu vois. Tu lis sur son visage qu'il se prépare une pénurie. Je pense qu'entre lui et Madonna, c'est 50% des réserves mondiales de Botox, tu vois. Mais là, j'aimerais aussi qu'on ait une pensée pour des gens qui souffrent, parce que, voilà, ça c'était la partie festive de l'actu, mais il y a des gens qui en chient en ce moment.
Alors, à qui donc pensez-vous ce matin, Gaspard? Bah,
moi j'ai une pensée ce matin pour tous les mecs qui sortent avec une nana qui vote Europe Écologie Les Verts. Vous êtes plombés, les gars! Qu'est-ce que vous allez en chier le jour où vous aurez envie de les larguer? T'as Europe Écologie Les Verts, ils sont pour le mariage pour tous, mais pour le divorce pour personne. C'est... Là, on tient un nouveau business pour les marabouts. Ça va plus être Docteur Traoré fait revenir les trémés, mais Docteur Traoré dégage le boulet sans le faire chialer. Mais j'aimerais tellement être là le jour où Julien Bayou va larguer sa nouvelle copine après avoir fait des cours de rééducation donnés par la commission féminisme d'Europe Écologie. Ah, mais ça va être... Bonjour madame, ma copine respectueusement, voilà, j'ai une annonce importante à te faire. C'est pas facile, mais tout d'abord, regarde, j'ai pris des billets pour les aisselles, ça te fait plaisir? Oh mais Julien, qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi ces pétales de rose qui me guident jusqu'au bidet? Ça te plaît? Oh, c'est pas fini. Ce soir, on va dîner à la Tour d'Arzan. Oh, et puis regarde ma zérie. Oh, une bague en or, constellée de rubis représentant des toilettes sèches. Tu me connais tellement, Julien. Ça te plaît? Oh oui, je suis tellement content et respectueux et sans violence. Mais pourquoi tu te mets à genoux? Mais ça me fait plaisir d'être à genoux. Regarde, je vais même plus loin. Regarde, je me roule par terre. Je suis une serpillière, je te ramasse la poussière. Oh, tu es le seul homme qui sache me faire rire, Julien. Oh, je suis ravi. Puisque tu lui prends bien, voilà aussi ma carte de crédit, la clé de mon appartement, les bisous de ma grand-mère et mon slip. Et voilà, je te quitte. C'est propre comme ça, on est d'accord?
Non mais... J'ai bien aimé le bijou en diamant qui représente les toilettes sèches.
C'est un must.
Merci Gaspard, à la semaine prochaine. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion avec vous, chronique en absurdie. C'est pas mal aussi ce matin. Alors hier vous nous parliez viande, aujourd'hui légumes. Bah oui, ça va bien ensemble, des légumes français qui vont pas fort. Depuis le début de l'année, en effet, 10% des fermes de maraîchage françaises ont fermé. Et c'est énorme, hein, ce chiffre.
C'est le chiffre qui est donné par la filière Légumes de France. Il y avait au début de l'année 2022 31 500 exploitations de maraîchage en France. Une sur 10 a disparu en 9 mois. Et le pire, c'est que selon la filière, l'hémorragie est loin d'être finie.
Les prix de l'énergie, oui, c'est ça. C'est une saignée, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous êtes encore sur les toilettes sèches. Hein. C'est le secteur du maraîchage en France emploie 200 000 personnes. Il a subi crise sur crise. Alors d'abord, il y a eu le Covid, puis la première hausse de l'énergie fin 2021, celle des engrais, du transport. Puis il y a eu la sécheresse, les interdictions d'arroser, coup dur pour les salades et les haricots. D'ailleurs, on en manque. Et puis la main-d'œuvre, elle est très coûteuse, vous le savez, la main-d'œuvre agricole en France par rapport à ce qui se passe chez nos voisins. Elle est devenue encore plus rare, encore plus chère. Et tout ça, ça fait monter les coûts de production de 25% dans une activité à faible marge. Ça commence à ratatouiller.
Il y a les prix de l'énergie aussi qui ont flambé ces derniers.
Ah oui, parce que tout ça, ça ne parle pas encore de l'énergie. Et là, c'est le coup de grâce pour de nombreuses fermes. La culture des légumes, ça demande des serres pour cultiver sans pesticides, pour satisfaire la clientèle. Il faut aussi des chambres froides pour que rien ne se gâche. Les factures d'électricité vont être multipliées par 8 ou 10 d'ici la fin de l'année. L'électricité est devenue le premier poste de dépense du secteur, devant la main-d'œuvre. Et tout le monde est dans les choux.
Oui, joli. Mais ça n'a rien d'exceptionnel, en fait, parce que tous les secteurs, pratiquement, sont concernés. Beaucoup d'entreprises, hors agriculture, connaissent le même drame. Hein.
Et oui, mais là, ça tombe particulièrement mal. Ces 20 dernières années, la production de légumes en France n'avait cessé de reculer. On importait presque la moitié de nos besoins en 2020. Acheter ailleurs ce qui est produit moins bien que chez nous, alors qu'on a toutes les capacités, c'est quand même assez extravagant. Mais le Covid a été un électrochoc pour les consommateurs, pour la filière. On a tous collectivement eu peur que notre chaîne alimentaire se casse. On a commencé à reparler de souveraineté alimentaire et on s'est dit que ça ne serait pas mal de relocaliser.
Et c'est parce qu'il a été fait, non ?
Eh bien, ça commençait plutôt bien. Le secteur visait 70% d'autosuffisance dans 5 ans. Il y avait eu de l'investissement, de l'innovation et patatras. Et si on ne fait rien à ce rythme de fermeture des fermes, dans 2 ans, on n'importera non plus la moitié, mais 2 légumes sur 3.
Mais où est le paradoxe, où est l'absurdité dans cette histoire finalement ?
Alors, ça n'est peut-être pas un paradoxe, mais c'est une équation insoluble. Les maraîchers ferment parce qu'ils ne gagnent plus leur vie. Il faudrait que les distributeurs acceptent d'augmenter les prix, ce qu'ils ne veulent pas faire pour ne pas faire fuir les consommateurs. Consommateurs qui, eux, voudraient bien des légumes français, du circuit court, qui se désolent de la fermeture des maraîchages, mais qui ont un budget serré et pas la volonté de payer plus. Ce qui se joue autour de notre plat de carottes, là, ce n'est pas simplement le temps de cuisson, c'est le prix que nous sommes prêts à payer pour une assiette française, c'est le prix de notre souveraineté alimentaire.
Le prix de nos valeurs, c'est le titre d'un excellent livre d'Augustin Landier et David Tesmar, que je vous recommande d'ailleurs. Le prix de nos valeurs, c'est exactement notre sujet, haricots verts. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, on vous retrouve demain matin, même heure, même endroit. Dans un instant, le club de la presse Europe 1. L'automne sera-t-il chaud socialement? On va en parler avec Louis Osalter et Yves Tréhard du Figaro. A tout de suite.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
9h moins le quart, elle fut finalement calme cette rentrée sur le plan social. Quand sera-t-il cet automne? Demain, CGT, la FSU, les profs, et Solidaires appellent à la grève générale et nationale toute la journée pour le pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites. Tiens, petite info pratique, si vous voulez voir si votre train sera là, c'est lagrève.fr. Je ne connaissais pas ce site, il y a toutes les infos, c'est centralisé, c'est pas mal. Alors les retraites, c'est finalement le sujet choisi par Emmanuel Macron en ce début de second mandat pour prouver qu'il est toujours capable de réformer. Grande réunion ce soir à l'Elysée. Pourquoi ce choix d'attaquer le nouveau quinquennat par les retraites? Sujet clivant, pour emprunter un mot à la mode. Bonjour Yves Tréhard.
Bonjour à tous.
Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et Louis Osalter avec nous.
Bonjour Dimitri.
Journaliste politique à Marianne. Pourquoi les retraites, tiens? Mais oui, pourquoi? Alors, on va vous dire oui, parce que c'était une promesse, du candidat Macron. Mais dans le contexte de cette rentrée compliquée, la guerre, etc., ça peut paraître étonnant d'attaquer sur un sujet qui va diviser, inévitablement.
Bon, déjà, c'était dans son programme, il faut quand même le dire. Même si ça a été amené de manière un peu floue pendant sa campagne présidentielle, c'était d'abord la retraite à 65 ans. Ensuite, au lendemain du second tour, quand il s'est agi de s'attirer les bonnes grâces des électeurs de Mélenchon, c'est passé à 64 ans, l'âge de départ, le rythme auquel en fait on allonge la durée de cotisation et auquel on repousse l'âge de départ était négociable. Donc déjà ça partait sur des bases légèrement floues quant aux modalités exactes de cette réforme. Ensuite pendant tout l'été on n'en entend plus parler, comme si c'était plus du tout à l'ordre du jour.
Ah ouais, je crois que c'est même pas 1 minute 30 qu'Elisabeth Borne y consacre dans son discours de politique générale.
Elle n'en dit pas un mot, le président n'en dit pas un mot. Il sous-entend quand même qu'il va falloir travailler plus longtemps, mais il le dit depuis des lustres. La rentrée se fait sur un ton très concertation. Il y a ce fameux Conseil national de la refondation qui doit associer tout le monde pour prendre le temps débattre.
Alors pourquoi en reparle-t-il? Est-ce que c'est l'urgence budgétaire là, parce que Bruxelles attend des gages?
Oui, je pense qu'il y a une partie de ça, c'est-à-dire que le budget qui est présenté est toujours un budget de crise, c'est-à-dire qu'il y a des dépenses qui sont faites pour renforcer des services publics essentiels, la police, la justice, l'éducation, les armées. Et puis de l'autre côté, il y a le spectre de cet hiver difficile qui se dessine. Donc le budget dépenses, en partie pour des bonnes raisons, c'est-à-dire pour protéger les Français, les entreprises. Mais du coup, dans tout ce budget, il manque la piste d'économie qui a été promise par Emmanuel Macron, y compris dans son programme, pour revenir vers un déficit moins élevé qu'avant.
Et donc effectivement, vous penchez pour la thèse budgétaire, vous
savez. Ah mais complètement, et je pense que ce serait le gage que veut envoyer Emmanuel Macron, notamment à la Commission européenne qui, 2 fois par an, demande à la France de faire notamment une réforme des retraites. Oui. La seule piste qu'il a vue, c'était celle-là, et il veut le faire assez vite, visiblement.
Yves Tréhard,
Il y a un effet. Alors Louis parle de l'effet budgétaire. Moi, je parlerai d'un effet psychologique aussi. Parce que si vous êtes capable de me dire quelle est la colonne vertébrale de ce quinquennat, vous êtes très fort.
Bah, moi, je pensais que c'était la fin de l'abondance.
Si vous me dites, oui, mais la fin de l'abondance, ça ne veut rien dire, vous voyez.
Ouais, mais enfin, justement,
surtout qu'on sait très bien qu'on vit dans une société de consommation et que la fin de l'abondance, j'ai quand même quelques doutes sur le fait que nous passions un hiver tous les deux dans le noir, par exemple, avec des mitaines et un bonnet sur le.
Je vous prêterai une lampe de poche.
Sur la tête. Donc, pour être sérieux, les retraites, c'est une réforme qui est visible. C'est une réforme qui est visible, effectivement, par Bruxelles. C'est une réforme qui est visible par la droite. C'est un gouvernement de droite que vous avez. C'est un gouvernement qui ne peut tenir à l'Assemblée et au Parlement que grâce à la droite. Donc il faut qu'il marque des points de ce point de vue. Et il faut qu'il finisse le travail d'achever, et d'ailleurs ils sont en train de se faire harakiri tout seuls, les Républicains. Mmh. Hein ? Donc il faut que là il marque des points. Troisième chose, il faut effectivement qu'il fasse des économies. Quand on regarde le budget qu'on vient de voter, 500 milliards d'euros de dépenses, 345 milliards de recettes, ça fait 40 depuis 1974 que la France vote un budget en déséquilibre. Nous sommes un des pays qui dépense le plus, avec des services publics qui malheureusement aujourd'hui sont de moins en moins performants. Donc il essaye de faire passer la pilule aux Français en disant voilà, j'ai besoin d'argent et pour avoir de l'argent, eh bien, je vais passer par la réforme des retraites.
Ouais, alors, selon Canard Enchaîné,
il ne fait pas d'économie par ailleurs. Ouais. Et c'est un discours d'ailleurs qui a ses limites. Pourquoi ? Parce que combien ça rapporte la réforme des retraites par an ? Ça rapporte grosso modo entre 10 et 15 milliards, celle qui nous propose entre 10 et 15 milliards d'euros par an.
Pas mal, hein ?
C'est pas mal, mais c'est pas à mon avis suffisant pour réparer et l'hôpital, et l'école, et la police, et la justice.
Ouais, juste une info, on n'aurait pas fait la réforme Fillon de passer à 62 ans, c'est pas 11 à 12 milliards.
C'était 25 milliards.
Voilà, de déficit, voilà, on serait là actuellement à 16-17 milliards par an. Ouais, c'est, voilà, pour donner un ordre d'idée. Alors le Canard Enchaîné nous dit aussi que le scénario qui tient la corde actuellement pour faire passer la mesure serait donc de passer par voie d'amendement, toujours dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif en janvier. Mais ça permettrait, ça laisserait du temps pour discuter, hein, 2-3 mois pour tenter de se mettre d'accord.
C'est une Beyrouth, c'est ça ?
Ouais, voilà.
Et ça permet de faire un 49-3 Louis aussi, Olater, parce que le 49-3 est limité sur les textes ordinaires, mais illimité sur les textes financiers. Et le gouvernement a déjà préparé les esprits à un 49-3 sur le budget, parce que ça ne passera pas, pour l'instant, ça ne passe pas à l'Assemblée nationale. Et le fait de faire donc un nouveau budget de la Sécu rectificatif début d'année prochaine, c'est un artifice.
Bon, toute
c'est
façon,
un véhicule qui permet d'utiliser à nouveau le 49.3. Mais et budgétairement, en fait, ça risque d'être comme ça pendant toute la mandature.
Oui, mais on sait que les prévisions économiques sont tellement floues actuellement que de toute façon, il y aura des budgets rectificatifs. Mais j'ai toujours pas ma réponse, parce que j'entends ce que vous me dites l'un et l'autre. Oui, le choc psychologique, le symbole, le symbole d'autorité, de volonté, d'Yves. J'entends aussi
les
ce que vous me dites.
Aussi.
Voilà, aussi la dimension budgétaire, mais au prix quand même de la paix sociale. C'est-à-dire que la France n'est pas un pays particulièrement tranquille depuis plusieurs années. Quel hiver on
nous
promet ?
Mais s'il fait rien, il a le désordre quand même. Oui. Vous savez, c'est Churchill, hein, c'est pareil. C'est-à-dire que si il agit, il aura probablement, et c'est sûr, il aura un mur de contestation important. Il ne faut pas oublier que la dernière réforme 2010, enfin la réforme de taille en 2010,
la réforme Fillon,
il y a eu un mois, deux mois de contestation avec des manifestations à 1 million. Moi, je me souviens de personnes dans les rues.
Ben
c'était
oui.
assez, c'était chaud.
Alors que la réforme Touraine 2014.
Oui, mais la réforme Touraine, c'est pas la même réforme.
Ça,
on pourrait en parler parce que c'est
celle qui reporte. Voilà, c'est 43 ans de cotisation.
Elle allonge la durée de cotisation, alors que la réforme Fillon, c'était de reporter l'âge légal de départ à la retraite. Et donc, c'est quand même, de toute manière, vous avez le désordre. Simplement, ce qui change par rapport à l'époque Fillon, vous aviez une opposition qui était l'opposition du Parti Socialiste organisé, vous aviez des syndicats qui étaient encore à peu près représentatifs, même si c'était déjà moins le cas. Là, vous avez, et c'est ça le problème, que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, vous avez une espèce de climat de désordre où vous n'avez pas une opposition, mais des oppositions.
Oui.
Vous n'avez pas de syndicats, parce que les syndicats sont dépassés. Et vous avez une espèce de reliquat de gilets jaunes dans le fond de l'air qui est incontrôlable.
Oui, oui. Il y a un climat qui est délétère. On verra combien il y aura de personnes dans la rue, semble-t-il, d'après les renseignements territoriaux.
Il n'y aura personne.
Il n'y aura pas grand monde. Bon. Je voudrais aussi qu'on aborde rapidement ce sujet aussi. C'est cette note du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, un peu intitulé intitulé un peu long, révélé par l'Express. Note qui signale une mobilisation sur les réseaux sociaux visant à remettre en cause à l'école la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux ostensibles à l'école. Autrement dit, vous avez de plus en plus de jeunes, de lycéens notamment, qui arrivent avec des vêtements religieux, camis, abaya, etc., qui jouent un peu avec le règlement, qui tentent d'imposer la prière dans la cour, qui font pression aussi sur, avec ce chantage à la photo, aux jeunes femmes musulmanes qui se dévoilent à l'intérieur des établissements. Tout ça est quand même préoccupant, lui, aux haltères.
Oui, bien sûr. Alors, il faut bien voir l'aspect organisé de l'offensive, hein, qui oui. date d'ailleurs du printemps dernier. C'est pas uniquement en cette rentrée, même s'il y a un regain. Oui.
Marianne
en
parle fréquemment. Hein.
Et on en a beaucoup parlé aussi, parce que, bon, déjà, il y a une interrogation, c'est que va faire le ministère de l'Éducation nationale, que va faire Pape Ndiaye pour répondre à des interrogations d'enseignants qui se retrouvent quand même démunis. Pourquoi ? Parce que la loi interdisant le port de signes religieux sensibles, elle est claire pour le voile, par exemple. Il est évident que le voile est interdit à l'entrée de l'établissement. C'est une loi qui est plutôt appliquée, d'ailleurs, depuis 2004. Mais là, ce qu'ont trouvé les frérots salafistes qui animent cette offensive sur les réseaux sociaux, c'est le contournement de cette loi. Et c'est mettre l'enseignant, mettre l'éducation nationale au défi en adoptant d'autres vêtements, d'autres postures, d'autres attitudes qui ne sont pas prévues dans le texte de loi, parce que la loi, par essence, ne peut pas tout prévoir, y compris ouais. les évolutions et puis les tentatives de contournement. Donc, ce qui est très compliqué là, pour l'éducation nationale, c'est de trouver la réponse adéquate ouais. À ce type qui est.
Je donne un exemple, c'est par exemple une jeune fille qui arrive avec une abaya, ouais. mais elle met une ceinture mode achetée dans une enseigne de fast fashion. Et ça passe. C'est-à-dire que c'est difficile de prouver que c'est un vêtement religieux. Et alors que, quand même.
Et sur ouais. TikTok, le réseau social prisé par les adolescents, vous avez même des tutoriels qui vous expliquent comment. Quelle tenue porter pour qu'on vous laisse passer à l'entrée de l'établissement ou pour que l'enseignant ou le oui. conseil principal d'éducation se oui. retrouve démuni face à votre tenue à qui relève à la fois du rigorisme oui. religieux et de la provocation adolescente.
Et
si
à quand des séances de prière à la récré à 10h quoi.
Oui, enfin,
c'est ça en fait le spectre.
Il y a deux choses. C'est une technique qui s'appelle la taquilla, c'est-à-dire que, comme Louis l'a très bien dit, on contourne la loi et on fait de l'entrisme avec ce dont on dispose, et on s'installe comme ça, de façon subreptice, avec des gens qui ne sont pas toujours en face de vous très au fait des choses, et qui ne reconnaissent peut-être pas ces vêtements, ou c'est bien maquillé tout ça, disons. Et la deuxième chose, c'est qu'on ose espérer que l'éducation nationale eh bien, réagisse vite.
Oui.
Parce que moi j'ai en mémoire, évidemment, l'affaire du voile, Creil 1989, et on a mis quelques 15 ans avant de prendre une décision qui était sage, d'interdiction du voile dans les établissements scolaires.
C'est la décision de 2004.
De 2004, et ça a mis 15 ans.
Voilà. Et 18 ans plus tard.
Parce que tergiversation, surtout ne pas heurter les consciences, surtout ne pas... Non, il faut tout de suite mettre les choses au point. Alors je sais que c'est difficile, mais plus on tarde, et plus on se fait marcher dessus.
Mot de la fin, Louis Osalter.
Oui, tout à fait. Je souscris à la dernière partie de ce propos, c'est-à-dire que l'affaire de Creil, c'est flagrant d'ailleurs. Toute la gauche s'était divisée sur le fait entre la défense de la laïcité et la défense de
la liberté,
de la liberté individuelle. Ouais. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est la conjonction d'une offensive islamiste, mais aussi d'une conception anglo-saxonne de la société qui imprègne énormément la jeunesse, on le voit, et qui consiste à dire, mais après tout, je m'habille comme je veux et c'est la liberté individuelle. Ça n'imprègne pas seulement la jeunesse musulmane, c'est vraiment, quand on regarde les sondages, c'est une conception qui imprègne la jeunesse tout entière. Et c'est pour ça que le défi ne fait que commencer et que cet état d'esprit baignant les générations qui sont actuellement à l'école et au collège, on n'a pas fini d'en parler.
Voilà. La solution réside-t-elle dans le retour à l'uniforme ? Oh, encore un débat qui reviendra.
Autre débat.
C'est un éternel recommencement tout ça. Merci messieurs Louis Osalter, de Marianne Yves Fréard du Figaro. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Allez, Culture Média sur Europe 1 dans un instant. Bonjour Thomas Hill.
Bonjour Dimitri. Oui, je ne suis pas Philippe Vandel.
Hein,
parce
grave,
que vous savez qu'il est suspecté
aussi.
D'avoir le Covid, donc il a préféré prendre ses distances physiques quelques jours. Mais tout le reste de l'équipe de Culture Média est bien là et en pleine forme. Même si ce matin, on va parler d'une fatigue que vous devez connaître d'ailleurs Dimitri parfois.
Jamais.
La fatigue informationnelle.
Ah, si, oui,
le
connais,
trop
ouais.
plein d'infos, la moitié des Français disent en souffrir. On sera avec l'un des auteurs d'une grande enquête à ce sujet. On parlera ciné aussi avec la sortie aujourd'hui d'un film belge complètement lunaire, ça s'appelle Poulet frites. C'est une enquête policière réalisée par la même équipe que la série Striptease qui était absolument
oui,
géniale.
C'est ceux qui ont fait Ni juge ni soumise.
C'est ça.
Ce qui passe sur Netflix, c'est
exactement.
Absolument incroyable.
Voilà, ils sont très très forts, ils seront avec nous et puis à partir de 10h les l'écrivain Charles Danzig nous rejoindra pour nous parler de son amour pour l'œuvre de Proust. Son livre s'appelle Proust Océan. On va plonger dedans avec délice.
Voilà,
excellent culture, livre.
Excellent livre, excellent programme comme tous les matins. Merci Thomas, je vous souhaite une bonne émission. Chers auditeurs, on se retrouve demain matin à partir de 7h pour Europe Matin. C'est Romain Desarbres qui vous accompagne dès midi pour l'info sur Europe 1. Bonne journée, à demain.